Alors.
C'est tout.
Bon, bah on y va.
Bah, ouais, plutôt chaud.
Allons-y.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Qu'est-ce que c'est, ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
C'est ce qu'il dit.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui avec moi et pour cette nouvelle saison 3 en live au Lavoir Moderne parisien et en public. Ah, avec du monde, on vous embrasse, présent, merci. Les salles sont pleines, salles sont combles. J'ai une fine équipe à commencer par Juan.
Bonsoir.
Camille.
Bonsoir.
Et Hicham.
C'est moi d'habitude après Juan.
Oh, et, oh, et d'habitude on n'est pas dans cette pièce non plus.
C'est vrai, salut.
Apprécions les. Ouais, mais voilà, apprécions le bonheur d'aujourd'hui. Comment allez-vous déjà? Ça
très
va,
bien.
Tout va bien.
Très bien. Et toi, comment vas-tu?
Ah, extrêmement bien, parce que déjà on est dans un endroit chouette, avec des gens chouettes devant nous. Enfin, j'imagine, parce qu'il fait sombre, mais parions que vous êtes cool. Et en plus, on a une magnifique invitée, mais bien sûr, une personne talentueuse, une autrice qui a écrit Le Grand Mystère des Règles, qui a. Écrit ou en tout cas lancé l'idée, participer à Lettre à l'ado que j'ai été.
Dirigé,
oui, bah, ça va, oui. Qui est le host, speaker et la voix et le cerveau derrière Mortel chez Nouvelles Écoutes. Oui, bah, je te sauce. Donc, c'est, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est Taous Merakchi qui est avec nous.
Bonsoir!
Comment ça va, Taous?
Ça va, j'ai envie de boire, mais j'ose pas parce que j'ai la main qui tremble et ça va se voir.
Attends, ils sont pas si intimidants. Alors, ça ne se verra pas à l'audio. En fait, Taous a deux verres de vin blanc devant elle. Littéralement. Non, mais on est très, très content de te recevoir.
Merci.
Ça me fait très plaisir. Sur les conseils de Julie de Nouvelles Écoutes. Donc, on la remercie également.
Qui est là, en plus.
Oui, n'est-ce pas? Oui, des applaudissements tout le temps.
Bravo. Là.
Bravo. Alors, je veux pas dire, mais ils sont quand même vachement plus cool que quand on enregistre chez moi. Parce que vous foutez de la gueule dans mon salon.
Okay.
Ils sont quand même vachement chouettes.
Okay. On a dit merci à Greg aussi ou pas?
Et à Charles?
Ouais, Greg et Charles, oui, on leur fait des bisous. Mais non, mais on a dit que je ferai les bisous à la fin quand,
quand on pourrait partir parce que ça va durer très longtemps.
Quand le verre de vin sera passé. Non, on est très content de lancer cette nouvelle saison avec vous. C'est un tout petit peu intimidant, mais en tout cas, on est très heureux. Vous verrez, cette saison 3 sera magnifique. On vous en parlera un petit peu à la fin de l'épisode. Mais du coup, est-ce qu'on partirait pas dans le dur en parlant des sujets dont on va parler? Non.
Ah oui.
On s'est dit que cette saison, on allait changer et on allait commencer par Camille.
Oui.
Histoire de varier un petit peu.
Oui.
Alors, de quoi tu veux nous parler?
Alors, moi, je vais vous parler de la guerre d'indépendance américaine et du rôle de la France dans la guerre d'indépendance américaine. Histoire pour changer.
Le gros fun dès le départ.
D'ailleurs, j'en profite, s'il y en a qui ont prévu de rentrer en métro.
Ouais.
Désolé. Bah,
un truc que je me disais aussi, n'épuisez pas toute votre capacité d'attention sur le sujet de Camille. Il y a d'autres personnes derrière.
Vous avez le droit d'aller faire pipi quand vous voulez aussi.
On sait que c'est votre préféré, mais.
J'ai 1h45 de droit de parole.
Ouais.
C'est fou.
Après, ce sera Taous pour rester sur le fun. De quoi vas-tu nous parler?
Alors, je veux juste préciser, disclaimer, j'ai pas préparé de sujet. Et j'ai écouté mon premier épisode de Pardon Maman il y a 6 heures.
Yes! Et c'était Love at First Sight.
Voilà. Direct. Donc je vais parler de la mort et de rites funéraires. Mais en mode YOLO total, donc je vais avoir besoin de votre aide et de votre soutien parce que j'ai rien préparé.
En gros, quand je fais ça, vous rigolez, d'accord?
Oh, on a un chauffeur de salle, vous le savez pas, même. Après, il me semble que ce sera Juan.
Après, c'est moi. Je vais vous parler de Chinogu, qui est un mot japonais. Et en gros, ça parle des inventions qui pourraient être utiles, mais...
Pas trop.
C'est la fin de mon...
Shinogu, très bel accent, c'est sympa. Je verrai si je m'en sors mieux avec mon accent italien. Après, ce sera Hicham.
Eh ben moi, je vais faire un sujet animalier d'après. Voilà, merci.
Ah, il est fan.
Mon seul auditeur qui me suit.
De dire qu'il n'y a pas de quiz.
Mais c'est déjà
non,
ça.
Mais non, j'ai fait un sondage sur Twitter et puis le public a choisi. Ça sera une chronique animalière et ça sera sur le paresseux.
C'est bien, ça va nous remettre un coup de
super.
Et personnellement, je finirai avec un sujet dont on va déjà un tout petit peu parler en fin de saison 2. C'est pour faire un clin d'œil au lieu où nous nous trouvons, puisque ce sera la Commedia dell'Arte. Ouh, ouh, voilà, ouh. Tellement bien, mon Dieu, magnifique. On va apprendre tellement de choses, j'aime tellement l'Italie. Sur ce, est-ce qu'on ne partirait pas sur le sujet de Camille?
Allez, faisons comme ça.
Dieu existe et il est unique.
La France nous a toujours montré le chemin de la liberté.
L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je m'en vais.
C'est cool les applaudissements ouais, pour bah les ouais, jingles. Hein. Mal, hein. Venez à chaque fois dans le salon d'Ilias, ce sera vachement
cool. C'est
ouais,
ça.
Ouais, ouais. Donc oui, je vais vous parler de la guerre d'indépendance américaine. Alors, je vais vous poser cette merveilleuse question que je vous pose à chaque fois. C'était quand la guerre d'indépendance américaine?
1700. 17e siècle.
C'était la guerre d'indépendance.
La guerre.
Ah, oh, ouais, mais forcément, mais c'est encore la guerre.
T'as vu comment on noie le poisson ou pas?
18e siècle.
Non, mais
18e
oui,
siècle.
Oui.
Oh,
oui.
Easy, easy.
Alors, effectivement, c'est au 18e siècle. Donc, à la fin du 18e siècle, c'est pas la folie furieuse en Europe, étant donné que l'Europe est totalement ravagée par la guerre de 7 ans, qui a coûté très très cher sur le plan économique, humain, voilà. Donc, la guerre de 7 ans, qui, comme son nom l'indique, a duré 7 ans, de 1756 à 1763. Voilà. Donc, la France, durant cette guerre de 7 ans, elle est perdante, totalement. Elle est humiliée.
Oh, bah, tu sais.
Ça me rappelle d'autres guerres, mais bon, passons.
Et donc, elle est humiliée par le traité de Paris et elle doit céder toutes ses colonies d'Amérique du Nord aux Anglais qui, eux, sont les vainqueurs.
Voilà. Ça me rappelle aussi d'autres guerres, mais cool. Voilà.
Donc, les Anglais, malgré tout, ils sont quand même très, très affaiblis économiquement. Donc, pour se refaire un petit peu le porte-monnaie, ils se disent, eh ben, on va faire payer la guerre à nos 13 colonies d'Amérique du Nord. Plutôt que de faire payer les habitants
j'aurais
de la métropole.
Fait pareil, oui,
oui bah, c'est ce que j'aurais fait également. Donc, qu'est-ce que sont les 13 colonies d'Amérique du Nord à cette époque-là? Eh bien, en fait, c'est 2 500 000 habitants, tout de même. Et c'est toute la côte nord-est des États-Unis d'aujourd'hui.
Camille fait des gestes pendant qu'elle parle.
Ouais,
les gens vont écouter cette émission, t'es consciente de ça?
C'est vrai. Et comme d'habitude, je suis très gestuelle. Voilà. Donc, en fait, on va imposer des taxes très, très fortes sur tous les produits de première nécessité que les colons d'Amérique utilisent. Donc, le sel, le thé, en parlant plus à des gens qui boivent énormément de thé, donc ça les saoule, et le sucre. On va mettre également des taxes sur les timbres, sur les cartes à jouer, enfin, sur absolument tout. Et en plus, on va interdire aux colons américains d'aller un peu plus à l'ouest parce que les Anglais ont envie de garder des bons rapports avec les Indiens. Donc, on se dit, on va pas trop aller foutre notre merde un peu plus loin. Les Américains, enfin, les colons sont obligés de vendre les produits des colonies uniquement aux Anglais. Bref, les colons américains, ils ont un petit peu l'impression d'être pris pour des jambons. Donc, ils décident d'écrire au Parlement anglais pour réclamer l'autorisation d'être représentés au Parlement de Londres par des élus.
Ok, voilà. Donc c'est-à-dire qu'ils voulaient avoir...
Des émeux, quoi.
Des émeux, exactement.
Donc ils voulaient avoir une représentation à 4000 bornes de chez eux.
Ben oui, mais c'est un peu normal aussi, parce que c'est à 4000 bornes oui. De chez eux que tout se décide pour eux.
Oui, voilà. Enfin, c'est un peu tiède, mais pourquoi pas.
Et si on les représente pas, ils disent, ben on paiera plus les taxes. Voilà, no taxation without representation.
Oh, English accent. Non,
nice.
Absolument, voilà. Donc les Anglais, ils reçoivent cette demande et ils décident de s'en toponner le coquillard avec une babouche et ils répondent par la négative.
Qu'est-ce
voilà.
Que c'est quoi?
Attends.
Ouais, non mais allons-y. Hein.
Je l'ai écrit, je ne pensais pas écrire cette expression dans toute ma vie.
Voilà.
Mais c'est parce qu'elle n'existe pas.
Bah si, mais la preuve en est.
Coquillard, babouche.
Voilà. Donc, c'est le début des hostilités. Les colons américains sont très très mécontents qu'on refuse de les représenter. Donc, ils décident de boycotter les produits anglais. Et en 1773, il y a ce qu'on appelle la Boston Tea Party. Et donc, en fait, à cette époque-là, il y avait des cargaisons de thé qui provenaient d'Amérique, qui devaient être envoyées en Europe. Et les colons, pas tous les colons américains, mais une poignée de colons américains se sont dit, bah tiens, si on allait détruire ces cargaisons de thé, donc ils n'ont pas détruit 4 sachets de Earl Grey, hein, ils ont quand même bidouillé 45 tonnes de thé qu'ils ont jeté dans la mer.
C'est du fan d'infusion gigantesque. C'est ça. Genre, t'as les poissons d'y avoir une pêche, un petit accent british qui ressort, tu vois.
Quelqu'un a des crackers?
C'est les meilleures blagues du monde, les gars.
J'ai l'impression d'être aux grosses têtes.
Eh, hey, ça va, on avait 2 mois de vacances, merde. Oh, la fatigue.
Béni chouchou.
Béni chouchou. Et donc, du coup, les Anglais ne sont pas très contents parce que 45 tonnes de thé, ça représente une somme énorme. Et donc, ils décident d'augmenter les taxes vis-à-vis des colons américains pour qu'ils remboursent les pertes. Et en plus de ça, on envoie des troupes à Boston pour calmer les tensions, mais ça ne va faire qu'augmenter les tensions. En avril 1775, il y a la première bataille, entre guillemets, ça relève plus d'une embuscade que d'une bataille, de la guerre d'indépendance américaine. Ça se déroule à Lexington. Alors, ne me demandez pas où c'est précisément, mais c'est par là-bas.
Aux US.
Voilà, sur la côte est. Voilà.
Vraiment la précision.
Ah, mais comme d'habitude, voilà. Et donc, c'est un tout petit truc, n'allez pas vous imaginer un énorme champ avec des milliers et des milliers de cavaliers qui s'affrontent.
Un croc en jambe, un petit coup de
70 hommes du côté américain.
Ah yes. Deux classes de CM2.
Pourquoi tu connais tant de choses sur les classes de CM2?
Et 200 hommes du côté des Anglais. Et les Anglais foutent une petite pâtée aux Américains.
C'était la bataille pourrie, quoi.
Ah oui, non, mais vraiment, c'était plus ou moins dans un ruisseau, en plus. Enfin, vraiment, la guerre des boutons, quoi.
Ouais, c'est sûr que t'as pas regardé la guerre des boutons.
Si, plus ou moins, ça a inspiré, visiblement. C'est une petite défaite, mais les colons américains décident de pas se laisser abattre. Et quelques semaines plus tard, on va nommer un certain George Washington à la tête de l'armée des colons rebelles, qui s'appelle la Continental Army. Donc c'est une armée de 20 000 hommes, ce qui est pas trop mal pour l'époque, mais c'est pas du tout une armée de profession, donc c'est des mecs qui savaient pas trop quoi faire de leur vie, qui ont signé, qui ont dû aller, vas-y banco. Et ils se battent avec des armes de chasse, étant donné qu'ils ont pas d'armes d'armée. Donc voilà, on va pas aller très très loin.
Sachant que si je peux me permettre, les mecs manquaient pas de toupet parce qu'ils ont colonisé un endroit et après ils se sont battus pour le garder, mais face à d'autres personnes. Niveau forcing, c'est quand même pas mal, quoi.
Ah oui, et c'est surtout aussi que sur les 2 500 000 habitants, ils n'avaient pas l'opinion publique avec eux, c'est-à-dire que la grande majorité des colons d'Amérique, ils disent « bah non, nous, ça nous va d'être anglais », ou au mieux, ils étaient neutres, en fait. Mais ils ne s'intéressaient pas forcément à l'indépendance, donc George Washington et une poignée d'hommes, ils sont un petit peu seuls, en fait, à vouloir se rebeller contre les Anglais. Et les Anglais, eux, ils ont une grosse armée, ils ont la meilleure flotte du monde à cette époque-là, ils ont des mercenaires et ils ont une bonne partie des Amérindiens. Parce que les Amérindiens, ils le sentent mal, l'expansion des Américains. Et donc ils disent...
Visionnaire, mec.
C'est des fins limiers. Et ils se sont dit, on va plutôt se ranger du côté anglais.
Il n'y a pas un président récent qui a demandé de ses papiers à un Indien natif américain récemment?
Ah, si, peut-être.
Si, ouais. Il était là bien avant lui, mais bref, passons les détails aussi géopolitiques.
Et donc, il y a plusieurs batailles, je ne vais pas vous raconter la totalité des batailles, mais bon, autant vous dire que pour le moment, les victoires, elles sont essentiellement anglaises. Voilà. Qu'à cela ne tienne, le 4 juillet 1776, le Congrès américain décide d'autoproclamer l'indépendance de l'Amérique, d'où la fête nationale le 4 juillet.
La fameuse.
Voilà. Donc, George III, il reçoit cette déclaration d'indépendance, donc c'est le roi d'Angleterre, il reçoit cette déclaration d'indépendance à Londres, les lunettes lui en tombent un petit peu. Et
arrête d'inventer des expressions.
Mais d'habitude, ça vous choque pas que j'invente des expressions?
C'est parce que tu le fais pas trop d'habitude.
Si. Et donc du coup, il décide d'envoyer encore plus de troupes là-bas. Donc autant vous dire que il y a quasiment, j'ai l'impression en fait, à force qu'il envoie des troupes, je pense qu'il y avait plus un seul soldat sur les territoires anglais, ils étaient tous aux États-Unis. Voilà. Et la même année, en 1776, il y a la première vraie victoire américaine. Donc c'est la bataille de Trenton dans le New Jersey. Où enfin, ça y est, les Anglais, après plusieurs années, arrivent à mettre une petite branlée Américains. Les Américains arrivent à mettre une petite branlée aux Anglais. Voilà. Petite anecdote, d'ailleurs.
Oui.
Les insurgents, donc, c'est-à-dire les colons américains qui étaient pour l'indépendance, malgré leurs petits moyens, ils étaient super créatifs. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé ce qu'on appelait le turtle. Donc en fait, c'est une invention de David Bushnell. Et c'est le premier sous-marin militaire. Et on est en 1776 quand il l'utilise.
Est-ce que tu peux préciser l'état du bordel que,
Alors,
si c'est un sous-marin, est-ce que c'était celui avec un truc qu'il fallait tourner pour qu'il avance là?
Oui. C'est le premier système
vraiment,
à hélice sous-marin.
Vraiment, je croyais que ça datait de Léonard de Vinci, ça?
Non.
Non, mais si c'est un mec avec une combi et des palmes, et c'est un sous-marin une place, mais
non,
pas.
Non.
Non, c'était ça... genre une noix avec,
alors,
avec une peau.
Alors, c'est en bois. Ça fait 1,80 m de long sur 3 m de haut. Ça a une forme de grosse palourde.
C'est un cercueil, quoi.
Cette merde en bois. Tu mets un bonhomme dedans.
Jusque-là, ça va.
Juste en après,
il tombe très loin dans la mer.
Comment ?
Après, il tombe très, très bas dans la mer.
Non, parce qu'en fait, avec un système d'hélice, alors après, je t'avoue que j'ai pas étudié tout le truc, mais en fait...
Vous voyez, un moulin à café à l'ancienne, là, c'est
pareil. Il peut
se
déplacer à 5 km/h par mer calme.
Yes !
Mais c'est-à-dire que par mer agitée, il recule.
C'est-à-dire que tu nages plus vite.
Et en fait, le but du jeu, c'est de prendre des explosifs avec soi et aller incognito, visser des explosifs.
Il respire comment ?
Ben, il n'y a pas d'eau dans la...
Ils sont mal écoulés. Le mec, il a 8 kilos d'explosifs, il n'est pas s'en sortir. Enfin, c'est voilà. Perdu d'avance.
Et en fait, le but du jeu, c'est d'aller fixer des explosifs sous les bateaux anglais. Voilà, pour les faire exploser.
Et il y en a combien qui ont réussi sans décoller ?
Zéro.
Ah bah tiens. Oh là là, me v'là surpris.
Voilà, c'est un échec total. Je crois qu'on s'en est servi qu'une fois. Et oui. Le mec, il est sorti pendant... Enfin, il s'est barré parce qu'en fait, le turtle, il partait à la dérive.
Bah oui.
Et
non, donc, il est parti voilà. Trop tôt, comme beaucoup d'autres hommes.
Bien.
Vous la prenez voilà. Comme vous la voulez. Mmh. Bah, vous voulez celle-là.
On la prend, on n'a pas le choix, mais voilà. Donc...
Un peu filtre, c'est... mais...
Donc c'est un échec, voilà, mais je me suis dit que c'était une petite anecdote qui vous mettrait en joie.
Non, ah bah oui, là...
Fort bien. Oui.
Voilà, vous pourrez la raconter à vos petits-enfants.
Non.
Mais voilà, la créativité, malgré tout, et l'acharnement des insurgents, ça finit par payer, étant donné qu'en 1777, il y a la bataille de Saragota, et c'est une bataille qui est décisive, c'est une victoire des colons américains, et c'est la victoire qui va faire que les pays européens décident enfin... de se taper un petit peu l'incruste dans le conflit. Exactement.
Ah, donc j'étais à côté. Juste une petite question. Tu sais, le drapeau bleu et rouge avec une croix...
Nope.
Oh là
Non,
je la sens pas, celle-là.
Bleu...
C'est que t'es dans ta chambre, là. Non.
Ça n'a rien à voir avec
ça. C'est la guerre de sécession.
Ça n'a rien à voir.
Non, mais c'est entre eux, après.
Ah.
C'est plus tard, c'est entre
aucun,
le nord et le
sud. Aucun putain de rapport.
On fait un clap pour couper.
Ah non, mais...
on peut pas couper au montage.
On enchaîne.
Fermez les yeux.
Donc alors, comment est-ce que la France, elle intervient dans le conflit ? Eh bien, la France, en fait, elle intervient petit à petit. C'est-à-dire que dès 1775, il y avait déjà des Français qui s'étaient un petit peu rangés du côté des États-Unis. Notamment Beaumarchais. L'écrivain, qui a écrit le mariage de Figaro, entre autres, que t'es un petit peu homme à tout faire. Hein. Il a aussi été espion, horloger, professeur de musique.
Sérieux ?
Oui.
Il est turbo badass ?
Turbo.
C'est très gênant.
C'est mon salon, d'accord ?
Oh.
No. Pardon, chef.
Pas aujourd'hui.
Et donc, Beaumarchais, en fait, il se prend d'affection pour les colons américains parce qu'en fait, c'est les héritiers de la philosophie des Lumières. Il se dit, voilà, c'est un peuple qui est pris de liberté, d'égalité, etc. Et donc, il se dit, bah tiens, je vais devenir trafiquant d'armes en leur faveur. Voilà, okay. Je vais essayer de leur refourguer des armes. Donc, il a aussi été trafiquant d'armes.
Un bel humaniste.
Oui, voilà. Donc, très vite, il va se mettre Vergène, qui est le ministre des Affaires étrangères, dans la poche. Et donc, en fait, il va faire un trafic d'armes plus ou moins légal et il va réussir à envoyer des armes aux États-Unis. Et en 1777, on a le marquis de Lafayette, dont vous avez déjà entendu parler, dont j'ai appris que le prénom était Gilbert. Je suis profondément choquée.
Gilbert voilà. Lafayette.
Oui. Il s'appelle Gilbert Lafayette. Voilà. Enfin, de Lafayette, voilà. Mm-hmm. Eh bien, notre ami Gilbert, il décide d'apporter son aide aux colons. Donc, c'est un jeune soldat français. Il a une vingtaine d'années et il décide en fait d'y aller tout seul avec quelques hommes.
Il est connu pour être bien bien motivé.
Ouais, bah carrément. Le type, il traverse l'Atlantique, donc ça déjà c'est une preuve de, enfin avec les conditions de l'époque. Donc moi je trouve que c'est une belle preuve de motivation. Et donc il va sur place, il va rencontrer George Washington, il se lie d'amitié avec lui et il arrive à motiver le Congrès d'Amérique pour qu'ils envoient des émissaires en France pour motiver Louis XVI à participer à la guerre d'indépendance américaine. Et donc on va envoyer en France Benjamin Franklin, qui à la base n'aimait pas trop la France, mais là du coup je pense qu'il a fait un petit effort. Hein. Et
pourquoi est-ce qu'il n'aimait pas la France ?
Pour plein de raisons, parce que déjà à la base, pendant la guerre de 7 ans, il était du côté des Anglais, comme George Washington d'ailleurs et comme tout le monde, mais là ils étaient bien contents d'être copains avec la France du coup. Et donc Benjamin Franklin, il est très respecté en France parce que c'est Benjamin Franklin, il est très apprécié par les Français parce que c'est un grand savant, c'est un héritier des Lumières, c'est un philosophe, enfin voilà, on l'aime beaucoup. Et il va facilement réussir à convaincre Louis XVI, qui déjà était plutôt chaud pour l'idée d'aider les États-Unis. Et pourquoi la France elle décide d'aider officiellement les États-Unis ? Parce que d'une part, voilà, on est dans cette période de philosophie des Lumières, que c'est beau d'aider un peuple qui veut la liberté, et aussi pour mettre une belle branlée aux Anglais.
Yes !
Un peu comme au rugby aujourd'hui, quoi.
Et de prendre la revanche.
Non. 44-8.
On en parlera après.
Donc Louis XVI, il envoie des hommes, des armes, et surtout une flotte. Voilà.
Une flotte ?
Non, avec des bateaux. Avec des bateaux.
Oui, avec des bateaux. Mmh. Voilà. Mais pas des packs de Saint-Lambert. Quoi. Voilà. Donc, il y a quelques batailles qui vont se dérouler depuis l'arrivée des Français, mais en fait, il y a de plus en plus de victoires américaines parce que l'apport français, il est quand même vraiment décisif. Il y a d'autres États qui vont suivre, c'est-à-dire qu'il y a d'autres États qui vont se ranger du côté des Américains. Il y a l'Espagne, il y a les Prussiens, il y a les Pays-Bas. Enfin voilà, les Français, on est les premiers à vouloir soutenir les États-Unis, mais ensuite, les années qui suivent, il y en a d'autres qui viennent. Et au final, trois ans après que la France se soit mêlée au combat, eh bien, c'est la victoire définitive des Américains avec la défaite anglaise de Yorktown le 17 octobre 1781. Les Anglais capitulent, la flotte française va mettre une énorme branlée à la flotte anglaise qui était, comme je vous l'ai dit, la plus grande flotte du monde. Donc autant vous dire que Louis XVI est archi content, il a sa petite revanche des familles. Et après deux années de négociations, eh bien, on signe le traité de Versailles le 3 septembre 1783 à
Versailles.
Wouh ! Voilà. Un qui suit.
C'est une gommette.
Voilà. C'est un peu facile. Hein.
Voilà. Donc les États-Unis, qu'est-ce qui va changer ce traité de Versailles par rapport à la déclaration d'indépendance ?
Eh bien, un contrat ?
Ben non, en fait, c'est que les États-Unis sont reconnus en tant qu'État, mais par les autres pays, pas que par eux-mêmes.
Voilà, parce que
jusqu'ici, c'était. Ouais, oui, je trouve que c'est un bon début.
Ça me fait penser à un autre problème géopolitique, mais clairement, on n'en parlera pas ce soir.
Non, non, moi aussi, clairement. J'ai pensé en l'écrivant, je me suis dit, ça me rappelle un truc.
Ouais,
mais,
bon, pas ce soir, je suis pas chaud là.
Et au passage, la France, dans le traité de Versailles, elle se récupère des petits trucs. On récupère Dunkerque, quand même, c'est à noter.
On s'est fait niquer.
Voilà.
Yes. J'en profite pour aller chercher ma bouteille d'eau. Tiens.
Nos comptoirs en Inde, des îles aux Antilles. On obtient un droit de pêche vers Terre-Neuve.
Yes.
Quand même.
Voilà. Et puis Sardou a pu faire une belle chanson par la suite. Très bien.
Oui, c'est vrai. Et on humilie les Anglais. Et ça, c'était vraiment, je pense, la partie la plus sympathique. Voilà. Oui. En 1787, eh bien, la fameuse Constitution des États-Unis est rédigée. Et George Washington devient le premier président des États-Unis d'Amérique en 1789.
Et un des pères fondateurs.
Exactement.
Je sais pas qui sont les autres.
Ouais. Bah, il y en a une cinquantaine. Moi, je pensais qu'il y en avait quatre.
Oh, peu cher.
Ouais, et en fait, il y en a une cinquantaine. Voilà.
Je sais.
Ça fait une grande.
En fait, mais en gros, c'est les gars qui ont signé la Constitution, le traité d'indépendance ou le traité de Versailles.
Bah, c'est des mecs avec des perruques qui ont parlé pendant des mois. Ouais.
Oui. Voilà.
Je vois.
Donc, la France, qu'est-ce que ça lui rapporte la guerre d'indépendance américaine à part la victoire ? Bah, pas grand-chose. Ça a coûté très très cher, plus d'un milliard de livres.
La monnaie.
Oui, voilà, je ne saurais pas vous dire combien ça fait en euros, mais ça fait beaucoup.
Mais un milliard d'aujourd'hui ou
non,
de l'époque.
C'est pour ça que j'ai dit de livres. Ah
oui, totalement.
Bah,
parce que c'est pas de l'euro.
Des livres sterling encore.
Non, c'est pas. Non, non.
Avançons.
Voilà.
Ah, mais je sais pas, un milliard à l'époque, c'est énorme.
Mais même aujourd'hui, c'est.
Non, mais c'est encore plus énorme que.
Voilà. Bon, quoi, ça fait un milliard, Larmina. Ça suffit. Allez, Camille, après toi.
Voilà, donc ça coûte très cher financièrement, et donc l'idéologie de liberté, la soif d'indépendance, etc., eh ben, ça va faire son chemin dans la tête des Français, et c'est une autoroute en direction de la Révolution française qui va se créer assez rapidement. Quant à ce bon vieux Lafayette, ce cher ami Gilbert,
oui,
c'est recyclé dans la
une galerie.
Voilà. Non, eh ben oui, alors oui, galerie Lafayette, effectivement.
Oh putain.
Et non, en fait, il est resté toute sa vie très, très attaché aux États-Unis, étant donné qu'il a appelé son fils George Washington Lafayette.
Simple.
Et sa dernière fille, Virginie, voilà, en hommage.
Virginie Lafayette.
Bah, Virginie, pourquoi
la Virginie, du coup. Ça
bah oui, non, mais c'est lui qui en a fait un prénom, du coup, je pense. Non ?
Bah non.
Bah non, moi je pense que c'est en hommage à l'État.
Bah, tu sais, tu fais un sujet, tu peux pas nous poser des questions. Hein,
c'est un sens que ça.
Mais ça, c'est un échange.
T'as trop traîné avec Hichem pendant ses vacances. Beaucoup trop.
Et Washington, il s'appelle Washington parce qu'il s'appelle Washington ou parce qu'il habitait à Washington ou est-ce que la ville s'appelait Washington
la...
Vous pouvez partir si vous voulez.
Voilà. Jingle.
Voilà, c'est tout pour moi.
Hichem. Magnifique de précision, de concision. À partir de maintenant, nous enregistrerons tous les épisodes ici.
Ah, mais carrément. Je me sens moins seul quand je fais des blagues pourries.
Ce sujet a fait moins de 35 minutes.
Mais j'ai pas fait de blagues pourries. C'est toi qui les as toutes faites.
Bah, justement.
Ah oui.
Non, mais très très chouette. Je sais pas vous dire de plus à chaque fois parce qu'il y a que moi qui commande. N'hésitez pas à dire.
Bah, non, oui, on va pas changer. C'est très intéressant.
Au passage, on remercie notre photographe qui est là.
Oui, bonjour.
Il s'appelle Sébastien, il est très gentil.
Et merci à la régie où il n'y a personne en ce moment.
Vous pouvez regarder, il n'y a personne. Voilà.
On va enchaîner sur Taos. On t'a fait un petit jingle.
C'est vrai.
Ne reconnais-tu pas la mort quand tu la vois, vieil homme ? La mort n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut tous prendre.
C'était impro. Gandalf.
Je vois pas ce qui vous a inspiré.
C'est Hicham qui l'a fait.
Ouais. Des merdes avec
c'est qui Hicham.
Je crois qu'il y avait marqué mort dedans.
Oui, écoute, j'ai tapé mort. Il y a eu deux trucs.
Bah, en fait, comme tu avais vachement préparé ton sujet, il a tout lu et exactement. Il a analysé le.
D'abord, je vais parler de comment je suis arrivée là. J'ai reçu donc un DM d'Ilias qui m'a dit est-ce que tu veux participer, tu peux parler de ce que tu veux. Le podcast s'appelle Pardon Maman. Donc moi, je me suis dit ok, non. C'est un podcast où en gros, on raconte des trucs qu'on raconterait pas devant nos parents. Donc je me suis dit.
Alors très clairement, mais ma mère écoute.
Allez, vas-y, on va parler, je sais pas, moi des rapports hommes-femmes, de la drague. Après j'ai compris ce que c'était vraiment, je me suis
pouh. La drague ou les rapports hommes-femmes.
J'aurais jamais dit non, t'as pas de podcast avec moi. J'aurais jamais dû dire oui. Mais sauf que bah, j'avais déjà dit oui et ça avait déjà été annoncé, donc j'ai pas
pu reculer. Ça nous fait tellement plaisir. Que
là, donc là, je suis un peu là sous la contrainte. Oui. J'ai pas du tout envie d'être ici. Non, c'est pas vrai. Je suis vraiment sincèrement très contente et très honorée d'être là pour de vrai. Hein. Voilà. Donc la raison pour laquelle je voulais parler de la mort, c'est parce que j'anime en ce moment un podcast chez Nouvelles Écoutes qui s'intitule Mortel.
Écoutez-le, voilà. C'est très très bien.
Très badant.
Qui a pour vocation de réconcilier les gens avec la mortalité, la leur et celle des autres, et d'aborder tout ce qui entoure la mort, donc les funérailles, ce qu'on fait du corps une fois qu'il est mort, le deuil, des trucs très très cool. Et du coup, je me suis dit, bah, quand il m'a dit, parle de ce que tu veux, mon actu en ce moment,
c'est mon portefeuille qui tombe, tranquille.
Mon actu en ce moment, c'est la mort, donc je vais parler de la mort, mais je pensais que c'était vraiment genre un truc de dialogue, où en fait, on va parler ensemble de la mort. Pas que faire une dissertation de 20 minutes sur la mort, genre une TED Talk.
Oui, mais parce que t'as écouté qu'un épisode, Hicham nous a déjà parlé des chaussettes, des papillons. Enfin, c'est pas une blague, c'est vrai, c'est du vrai de vrai.
Oui, mais il avait documenté, il avait un texte.
Mais parce que je suis nul en impro.
Moi aussi. Donc voilà, par la force des choses, je me suis dit, ok, il va falloir que je trouve un angle à un moment. Et mon angle, c'était les rites funéraires en France.
Okay.
Malheureusement, j'ai pas travaillé mon sujet, donc j'ai pas assez de recherche pour vous faire un quart d'heure sur l'histoire des rites funéraires en France. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les rites funéraires en France, il y en a pratiquement plus. Les enterrements, c'est de la merde, globalement.
Bah, par hygiène.
Voilà, on se fait chier. À la limite, t'as le droit de mettre une ou deux chansons pendant la veillée, super. Parfois, tu vois un cadavre, ouh, t'as pas le droit de donner ton opinion aussi si tu le vois ou pas. Ça, c'est chiant, parce que c'est un truc qu'on devrait pas imposer aux gens. Mais qui devrait être un choix réfléchi et non pas un choix et non pas une obligation de tradition. Ça, c'est mon opinion.
Mais justement, c'est décidé par qui ça?
Par la famille.
Ah oui, mais après, c'est la famille qui.
Ouais, mais justement, s'il y a des gens dans la famille qui disent en fait, moi, voir le corps défunt de mon proche, ça va plus me traumatiser qu'aider dans mon deuil, ça fait chier
oui,
si on te l'impose. Et inversement, si on t'empêche de voir le corps alors que ça peut t'aider dans ton deuil, enfin voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui militent en ce moment, notamment aux États-Unis, pour une mort plus éthique et un dialogue plus ouvert sur la mort et les rites funéraires. Notamment une autrice qui s'appelle Caitlin Doughty, qui avait une chaîne YouTube qui s'intitule Ask a Mortician et qui a écrit deux bouquins. Le premier étant Smoke Gets in Your Eyes, où elle raconte comment elle a travaillé dans une maison funéraire. Il n'y a pas d'équivalent en France, ça n'existe pas.
Non, mais c'est beau.
Parce que c'est les morgues,
c'est
les hôpitaux, tout ça.
Voilà, exactement, Six Feet Under, ou The Haunting of Hill House récemment.
Ouh, j'ai adoré cette série.
Voilà. elle a aujourd'hui un podcast qui s'intitule Death in the Afternoon, avec deux autres nanas, où, en gros, elle dédramatise la mort, pas du tout de la même façon que Mortel, c'est-à-dire que Mortel, c'est juste moi qui vais à la rencontre de spécialistes selon le thème de l'épisode avec mon monologue intérieur pour meubler tout ça. Elle, c'est vraiment chacune, un peu comme vous, chacune fait une chronique pendant le podcast avec une anecdote sur une mort un peu insolite. Et en gros, leur but, donc, c'est de dédramatiser la mort et de permettre d'avoir plus d'options dans la mort. Aux États-Unis, il y en a déjà plus qu'en France. En France, on en a très peu. On peut se faire incinérer ou enterrer.
Sachant qu'on n'a pas le droit de garder les cendres, il me semble.
On n'a pas le droit de garder
les
cendres.
Ce que j'ai appris dans ton podcast.
Voilà. Et techniquement, on peut récupérer les cendres, mais on a un an pour en disposer. Après, ce n'est pas giga bien réglementé. Donc, il n'y a personne qui va venir vérifier. Il n'y a pas un inspecteur qui vient toquer à la porte au bout de 365 jours pour vérifier que si tu as une urne sur ta cheminée. Mais normalement, on n'est pas censé les garder. Et c'est assez réglementé aussi dans la dispersion des cendres. On ne peut pas les foutre n'importe où. On ne peut pas se faire enterrer sans cercueil. On ne peut pas se faire incinérer sans cercueil.
Ça, c'est fuck.
Voilà.
Ça, c'est si con.
Oui. Voilà.
Faudrait une petite enveloppe en bois, histoire de.
Une petite enveloppe en craft.
Qui coûte 3000 balles. Yes.
Et tu peux pas non plus mettre des objets avec la personne que tu veux faire incinérer.
Dans
des trucs cons. Franchement, je me suis rendue à une incinération il y a pas très très longtemps. Et on a voulu mettre des livres avec la personne. Et on nous a dit, ah non, c'est mort.
Ah, ça risque de prendre feu.
Camille.
Ah, merde.
Camille, non. Bah non.
Moi, j'ai pu mettre des photos.
Peu de respect.
Donc, je pense qu'il doit y avoir une, ouais, il doit y avoir des niveaux de ce que tu as le droit de mettre. Donc, moi, je trouve ça super dommage, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont réfléchies, il y a beaucoup d'innovations qui se font, qui se proposent, mais qui ne peuvent pas passer en vigueur à cause des lois et à cause de toutes les questions hygiéniques et éthiques. Notamment, bah, tu peux pas enterrer quelqu'un dans ton jardin.
Ah bah c'est con. Ah bah tu rajoutes maintenant mais tu rachètes une baraque, tu veux planter un cerisier, tu retrouves un macabé.
Voilà,
bah, non,
c'est un peu voilà pour ça, notamment aussi parce que ça empêche le deuil des personnes qui n'habitent pas sur la propriété. C'est-à-dire, si tu veux te recueillir sur la tombe de quelqu'un, ouais. Bah ça fout un peu les boules de pas pouvoir. Et parce qu'il y a des nappes phréatiques dans le sol.
Aussi.
Ah, voilà. Chez les jardins. Une petite contamination à base de cadavres.
Ils sont pas comestibles les dernières nouvelles.
Oh.
Oh tu sais. Ouais.
Oh.
Mais est-ce qu'il y a des rites on va dire un peu innovants qui pourraient être hygiéniquement compatible.
Alors, il y a des choses qui ont été réfléchies et que moi je trouve trop cool, notamment l'urne biodégradable que tu peux planter dans la terre avec des graines
trop
et
cool,
du coup tu deviens un putain d'arbre.
Ouais,
trop cool.
Et ça, je trouve ça trop bien et moi je veux devenir un platane. Quoi.
Mais pourquoi on n'oblige pas les gens à faire ça?
Mais parce que c'est pas légal.
Oui, en France en tout cas.
En France, ça n'existe pas encore.
Plutôt qu'être... Il me semble, je ne vais pas dire de conneries, mais c'est une start-up américaine qui a proposé ça.
Exactement. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus libéraux par rapport à ça.
J'ai l'impression.
Ils sont beaucoup plus, ouais, beaucoup plus détendus par rapport à la mort, malgré leur esprit extrêmement puritain. On aurait pu croire que là-dessus, ils étaient rigides, mais non.
Janet Jackson représente.
Mais oh, pourquoi c'est pas légal
hein? Quoi?
Pourquoi c'est pas légal, ça?
Parce qu'en France, en fait, il faut passer par 10 milliards de biais pour changer les lois sur ce genre de trucs, et que, en fait, ça pose trop de problèmes, qu'il y a des lobbies. Il y a des lobbies dans les entreprises funéraires, il y a les lobbies de
fabricants
de cercueils. C'est eux qui font opposition, notamment à ceux qui voudraient qu'on ait des cercueils en carton pour l'incinération.
Ah, mais alors.
Le lobby du bois.
Ah oui, non, parce que j'allais dire, maintenant, c'est des. Toujours cette même personne à laquelle je fais incinération. Quand on a voulu récupérer la personne, on nous a dit, bah maintenant, il n'y a plus d'urne, ça n'existe plus. Et en fait, maintenant, c'est dans des boîtes en carton bio.
Non, mais à la place du cercueil, il y a 3000 balles. À la blague du cercueil à 3000 balles, tu prends un sac de couchage quechua à 20 balles et c'est réglé. Quoi. Enfin,
mais à l'instant,
mais sachant que tu ne peux pas récupérer l'urne, si tu es en France, ça ne sert à rien de le foutre dans une urne. Du coup. Enfin, tu ne peux pas la conserver, autant que ce soit
dans un cercueil. Tu peux quand c'est dans un columbarium.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'un columbarium?
Un columbarium, c'est l'équivalent d'un cimetière pour les urnes.
Ah, intéressant. Un peu comme les têtes dans Futurama.
Yes, exactement. Très bonne référence.
Vous êtes
donc en général, dans les cimetières, il y a un columbarium aussi. Au Père-Lachaise, il y a un très grand columbarium.
Oui,
il y a Pierre Bellemare qui y est notamment. Voilà.
Il va y avoir un moment.
Du coup, je suis peut-être con, mais j'ai pas la rêve du nom. Pourquoi un columbarium?
J'en ai aucune espèce d'idée. Je n'ai pas travaillé mon putain de sujet. Ok.
Ok. Donc, est-ce que tu as d'autres options de trucs qui paraissent cool ou dans notre pays peut-être?
Alors, il y a plein de choses dans plein de pays. Il y a notamment.
Mais je meuble pas, Janine. Mais non, parce que moi, pour le coup, j'ai vécu des trucs au Maroc que je ne citerai pas forcément parce que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à faire. Et il y a des rites, disons qu'il y a des rites où c'est les personnes doivent être enterrées très rapidement.
Mm-hmm.
Donc en gros, t'es un peu timé, genre prends ton avion demain, c'est parti. Bon, bref, c'est pas passé comme ça, mais par message, c'était plutôt l'urgence. Mais oui, voilà, les corps ne sont pas conservés, donc faut aller très vite. Et t'as un rapport au corps qui est beaucoup plus direct qu'en France. Et ça peut être intimidant, en fait, d'avoir ce rapport, ce lien, cette proximité. Et je sais pas comment dire, c'est assez intimidant en particulier. Et l'urgence vient des questions directes.
Salut mais... Seb.
C'est vraiment sur mon sujet, c'est le moment de faire toutes les conneries que vous
pouvez. Mais moi, je t'ai fait comme s'il n'y avait que moi.
Ok.
Voilà. Bah non, moi aussi, j'écoute.
Fais comme s'il n'y avait que moi et Camille. Mais parce que ça, c'est un rite qui est particulier, qui m'a. Après, il y a toute une procession.
Croiser les orteils, t'as eu?
Non, moi j'ai eu le bisou surtout. Alors, putain.
La foi musulmane, il faut croiser les orteils du mort pour que l'âme s'échappe du bon côté. Sinon, elle sort par les pieds. Et après, elle va en enfer, je crois.
Fais gaffe, ma mère, écoute, elle va me passer un coup. C'est pas une blague, elle va me passer.
Non, mais moi,
coup
c'est mon grand-père dont on a croisé les orteils. Donc
oui, mais t'es berbère, toi. Non, c'est kabyle.
Oui, mais.
Oui, bah, pardon.
Invasion arabe, on a été musulmanisés, pardon.
On va pas régler ça maintenant. On réglera ça dehors tout à l'heure.
On a parlé thé à la menthe et couscous la dernière fois, on a failli s'étriper.
Mais tu mets des trucs piquants dans ton couscous, c'est quoi ce bordel? C'est
marrant. Ils sont vraiment venus pour ça.
Je propose. C'est quoi tes deux trucs qui t'ont le plus explosé le cerveau sur le lien à la mort?
Alors, c'est un des rites. Donc, dans le monde entier, il y a 10 milliards de rites funéraires qui existent encore aujourd'hui, qui sont très, très, très différents et qui prouve à quel point en France on est coinceuse du cul, mais d'une force qui me débecte. Après, sont passés dans, enfin, ça ne veut pas dire que je veux qu'on passe à cet extrême-là, mais pour passer dans un extrême inverse, au Tibet, il y a ce qu'on appelle l'enterrement céleste. Et quand j'ai appris l'existence de ce truc-là, j'ai vraiment une partie de moi qui s'est dit « Ouais, je veux trop faire ça ». En fait, on laisse le corps à l'air libre pour qu'il soit mangé par les vautours, qu'il soit picoré par les animaux de la nature, pour qu'il revienne, en fait, qu'il rejoigne le cycle naturel et que les charognards emmènent eux-mêmes l'enveloppe corporelle au ciel et que, bah, on perpétue ce cycle qui fait que, bah, tu reviens à la terre, en fait, tu reviens à ce que tu étais à la base. Et je trouve ça vachement. Je vais faire un anglicisme parce que je ne connais pas le mot anglais.
Badass.
Humbling.
Ça calme.
Ouais, ça calme.
C'est nul en français.
Ça calme. Et en fait, je trouve ça vachement beau de se dire, en fait, on n'est que ça. Pourquoi on irait prétendre des trucs et se faire des pyramides et des mausolées qui prennent de la place et qui coûtent cher et qui font chier, alors que tes arrière-arrière-arrière petits-enfants, ils vont continuer à payer, alors qu'ils ne connaissaient même pas, alors que tu peux nourrir des vautours. Les vautours, c'est trop mignon en plus, c'est chauve.
Tu penses pas qu'on a...
Oui, mais The Rock aussi, il est chauve.
Je pense pas
il est très mignon, The Rock.
Quoi ?
À Paris, déjà, on a des problèmes avec les pigeons si on a en plus des vautours.
C'est exactement ce que je me disais. À Paris, bah, justement, les vautours, à mon avis, vont défoncer les pigeons et à Paris, ça aura plus de gueule avec des vautours et des corneilles.
Après, fatalement, si tu veux un enterrement céleste, tu vas juste crever dans la forêt quelque part et c'est ce qui va se passer si personne ne te trouve.
Ouais.
Mais en général, tu préviens.
Appelle-moi si t'as un problème, j'ai la solution.
Du coup, deuxième rite qui t'a mind gone. Parce que là, on part sur les volatiles et.
Non, bah en fait, c'est ce fameux truc de l'urne biologique qui devient un arbre. Je trouve ça extrêmement poétique et super, super, super. J'ai un ego extrêmement surdimensionné. Et du coup, moi, ça me va de me dire que je vais rester pendant des centaines d'années et que je vais devenir un arbre.
Et après, des petites allumettes.
Elle t'a tellement fait un regard
matos,
noir que je me
suis
senti mal. Il y a du
matos sur la table, Taos, calme-toi. Elle m'a jeté un... Non. Calme-toi.
C'est pas moi qui paye.
Non, mais tu peux devenir un livre. Ou une chaise Ikea.
T'as vu, ça marche pas mieux. Hein.
Non, mais alors, je suis entièrement d'accord. Effectivement, je trouve ça super con de ne pas le faire. Mais alors, question bête aussi. Désolé si t'as pas préparé le sujet.
Yes, vas-y. Mais,
est-ce que le corps a un vrai intérêt dans ce mécanisme? Genre, est-ce que tes cendres servent vraiment à faire pousser le truc ou c'est juste on a foutu 4 graines?
Non, c'est juste tu mélanges en fait à de la terre et des graines. Et
Bah pourquoi on dégage pas le corps mais juste des graines?
C'est ce qui s'appelle
plantain. Mais du coup, ça fait, c'est une forêt, hein. C'est juste un arbre normal.
Ouais, non, mais c'était ma question. Très bien.
À ce moment-là, mon citronnier, c'est ma grand-mère, quoi.
Ce serait cool.
Faut qu'il y ait quand même un peu de moi dedans.
Titre.
Donc oui, tout ça pour dire qu'en gros, je trouve qu'en France, on est coincé du cul sur les rites funéraires, on est coincé du cul sur le sujet de la mort de manière générale, et je trouve ça super triste parce que la preuve en est, les auditeurs de Mortel m'envoient des messages pratiquement tous les jours, là c'est le moment où je me lance des fleurs parce que je suis vraiment de nervosité, donc il faut que
J'allais te le dire, c'est insupportable.
C'est dur, hein.
Gardez-moi
mais
le
je suis dur depuis tout à l'heure, vraiment, je suis limite en train de sentir mon vin pour oublier que je pue. Et en fait, je reçois régulièrement des messages de gens qui me disent « je ne me rendais pas compte à quel point j'avais besoin qu'on en parle » avant d'avoir entendu le podcast, et moi-même, avant de me retrouver à faire ce podcast, j'ai toujours adoré parler de la mort, mais je ne me rendais pas compte à quel point c'était pas juste un truc de « j'aime bien parler de la mort parce que je m'habille tout en noir et j'écoute du métal ». Non, c'est vraiment, il y a un vrai intérêt et il y a une vraie valeur en termes de développement personnel, en termes de rapport à sa propre vie, en termes de rapport à sa philosophie, à sa place dans le monde, dans la société, et je pense qu'il ne faut pas oublier d'en parler parce que ça fait super peur et on en est tous conscients, ok c'est cool, mais en même temps on va tous y passer, donc à quoi ça sert de se battre contre un truc contre lequel on ne peut rien de toute façon, vous pouvez toujours essayer, ça ne marchera pas.
Et surtout, on va tous y passer, mais
voilà.
Non, mais surtout des deux côtés en plus.
Exactement.
Du côté de la personne qui va crever, ça vous fait aucun doute, ça va arriver. Enfin, c'est pas une nouvelle, c'est quelqu'un.
Et on va vivre le deuil aussi.
Voilà, vivre le deuil, surtout ça, ça me paraît encore plus important, c'est que ça a brisé des personnes et c'est d'autant plus important de libérer la parole là-dessus parce que autant bien réagir, s'entourer, etc. Et dans ce cas-là, le tabou est dramatique. Deux personnes qui souffrent chacune dans leur coin, ça fait deux dépressifs.
Bah ouais.
Deux personnes qui souffrent ensemble, ça fait deux personnes qui soutiennent. Donc,
Ça fait deux dépressifs qui se soutiennent.
Allez
c'est ce que disait le psychologue Christophe Fauré qu'on a interviewé dans l'épisode 4, qui disait qu'il n'y a aucun endroit, aucun moment en France où on apprend le deuil, où il y a quoi que ce soit qui est abordé à propos du deuil pour préparer au deuil, ça n'existe pas. Et... aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle Mortel, coucou. Et c'est une première étape, mais je pense que c'est une étape minuscule qui n'est que le premier pas vers, je l'espère, une meilleure vision de la mort et de la mortalité et du deuil. Et voilà. Et memento mori, souvenez-vous que vous allez tous crever.
La bonne humeur.
Et bah pour un truc pas préparé, c'était quand même pas mal.
Tu as réussi mieux que moi.
Et c'est un aveu.
Bigfoot Gate.
En parlant, ça fait 20 cm. Voilà. Et je viens de montrer ma main. Pour les auditeurs qui ne voient pas, ma main. Du coup, on va passer, il me semble, à Juan.
Ah, il va falloir. Hein.
Allez.
Allons-y.
Ça sert à rien.
François, t'obstine pas. Ça sert à rien.
On est pas mal, Pierre. Hein. C'est quand même très pratique.
Je vois pas que vous en ayez besoin.
C'est vrai que c'est joli.
Oui, mais ça sert à rien.
Alors, qui c'est qui a coupé, là?
Spinkles, pour ceux qui ont la rêve.
Exactement, j'allais dire.
L'humanité.
De tout temps, les hommes. Comme ça. Une intro de dissert de quatrième.
De tout temps, les hommes. De tout temps, les hommes. Non, on en fait tous partie, tous dans le bateau de l'humanité. Et malgré toutes les saloperies que l'humanité a pu commettre, on a aussi créé des jolies choses. Donc, au début, on a tâtonné, on a créé des premiers outils, peut-être des exemples.
Des cuillères.
C'était pas le premier, mais ouais.
Bah, tu admettons des exemples, pas des réponses.
Oui, bon.
Les silex, là, non?
Oui, voilà. Une pierre, c'est bien, voilà. Déjà.
Ils l'ont pas inventé.
Et puis, on est... Ah non, ils l'ont...
Oui, mais ils ont inventé.
Ils ont trouvé une utilité. Ouais. Et ensuite, on a fait des villes, des bateaux. On a dompté le rêve d'Icar. On a pris notre envol. Hein,
le mec, il s'est pété la gueule après avoir...
Oui, celui-là même. On est même allé dans l'espace. Mais surtout, l'invention la plus importante qu'on a eue, c'est celle-ci.
Fucking smartphone.
Qu'est-ce que c'est?
Oh. Alors, il sort une boîte avec un truc dedans. Mais c'est énorme, mon dieu. Mais quel... Putain.
Alors, une perche à selfie.
C'est une perche à selfie, mais le côté télescopique m'a fait peur sur le coup. Je me suis un peu écarté.
Titre.
Merci. Ouais.
On y reviendra. J'ai fait tomber la boîte. Donc, je vous parle de tout ça parce qu'au milieu de superbes inventions qui ont permis aux hommes d'avancer, il y a eu pas mal d'inventions à la con, dont celle-ci.
C'est pourtant... super bien la perche à selfie, pardon.
Ah ouais, pas mal.
Ça y est, j'ai bu assez de vin pour pouvoir intervenir.
Du coup, je t'agresse.
Voilà. Ouais. Je vais partir. Je termine mon verre, je te mets une patate.
Très bien. Octogone. Mais on a aussi eu des inventions qui ont par exemple permis d'atténuer un handicap, ce qui n'est pas le cas d'une perche à selfie.
Si t'as un tout petit bras.
Genre comme les T-Rex.
Je peux démissionner,
voilà,
ou pas?
Voilà.
Bon.
Alors, tu disais.
Mais on a eu des inventions qui auraient pu être utiles,
mais.
C'est raté.
Ça s'est joué à peu.
Ça s'est joué à pas grand-chose.
Ouais. Genre mastodon.
Non, tout simplement parce qu'une invention peut avoir un design qui fait qu'elle ne sera jamais utilisée par personne parce que la honte, tout simplement.
Mm-hmm. Ou parce que...
Oui, bon, on va y venir, t'inquiète. Okay. Oui, il peut y avoir un downside aussi. On utilise pour une raison qui nous arrange et puis il y a derrière un backside qu'on se prend dans le nez. Et ces inventions, on les catégorise par un nom japonais, le chindogu. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Comment j'écris ça? J'écris ça C-H-I-N-D-O-G-U.
Non, mais sinon, vous chercherez.
Oui, voilà, démerdez-vous.
Faisons comme ça. À l'oral.
Alors, ça se découpe en deux mots. On a chin, qui signifie curieux ou étrange, ou menton en anglais, mais oui, ça n'a aucun rapport. Et dogu, qui signifie outil ou appareil. Donc, appareil curieux ou appareil
étrange.
Ce terme, en bonne partie, regroupe des inventions qui ont été créées par un monsieur qui s'appelle Kenji Kawakami. Oui, je lis parce que je n'ai pas le nom, forcément. Et il les définit comme des inventions pas inutiles.
Tu m'as perdu là. Petit contresens.
Ouais, ça marche utiles, pas mieux quoi. En anglais, c'est unuseless.
Ah oui.
Qui sont utiles quoi.
Non, mais si c'était aussi simple, je n'aurais pas un sujet dessus. Figure-toi.
Vas-y,
non, c'est pas inutile. Parce qu'en effet, ces inventions, elles pourraient toutes avoir une utilité. Mais concrètement,
ça pêche.
Si elles commencent à utiliser par un grand nombre de personnes, elles perdent leur statut de chinogu. C'est compliqué, c'est normal.
Ouais.
Imaginons ceci.
Pour les auditeurs, auditrices, perche à selfie.
Perche à selfie, ça part d'une idée intelligente. Mais pendant des années, ça n'a pas été utilisé. Pourquoi? Parce que l'on l'utilisait aujourd'hui avec des smartphones. Ça fait sens, on peut les déclencher à distance. À l'époque, avec un appareil photo, on faisait... Attends, comment j'appuie sur le bouton du coup?
T'appuies, tu cours.
Ouais, ça, c'est un retardateur, mais ça n'a aucun rapport. Du coup, c'était catégorisé comme un chindogu. Une invention qui pourrait être utile, mais...
Mais il y a toujours eu un retardateur?
Oui.
Mais tu mettais le retardateur... Et ça marche.
Oui, mais t'avais pas besoin d'une perche, du coup, tu pouvais le poser quelque part. En tout cas, il est important de noter qu'elles pourraient être utilisées, mais qu'elles ne sont pas pour de diverses raisons.
Okay.
La honte, principalement. Le chinogu, pour résumer, c'est la découverte d'une solution compliquée ou inhabituelle à un problème qui n'était finalement peut-être pas si problématique. Okay. On en parlait, Hicham, quelques exemples. Par exemple, le chapeau PQ. Essayez de visualiser.
Ah, mais
oui,
je l'ai vu.
Ah, pour quand vous êtes malade, quand vous avez un rhume, distributeur de PQ. Pour se moucher, pas pour autre chose, calmez-vous.
C'est logique, ça paraît très utile. Mais est-ce que, enfin, concrètement, il s'agit d'un casque de chantier visualisé avec deux tiges, un rouleau, du PQ, ça glisse vers l'avant.
Il mime en même temps, ça a l'air.
Ça fait sens. Non, c'est génial en soi. C'est une idée formidable, mais non, personne non, jamais non. ne va utiliser.
C'est à une poche avec ouais. des mouchoirs.
Ouais. Donc c'est ça une invention qui est pas inutile, mais.
Qui est mais.
Attends, voilà. T'étais sérieux quand tu disais que c'est une invention géniale?
Ah bah un petit peu quand même. Non, s'il n'y a que moi, bon, tant pis. J'en ai une autre, ça tombe bien.
Allez.
Histoire de passer à autre chose. Le téléphone alter. Vous voyez du sens ou pas?
Attends, alter.
Alter.
Du genre.
Oui, allô. C'est-à-dire
que ça t'oblige à te faire ton workout pendant que tu sers de ton téléphone?
Alors, point positif du coup, plus souvent t'appelles maman, plus vite t'es musclé.
Oui.
Très bien.
J'ai envie de.
Par contre, si t'es en attente avec la CAF.
Mais non.
Voilà. Tu vas être musclé très vite, mais tu vas avoir mal. On a aussi les chaussons pelle-balayette. Alors, c'est celui que j'ai eu le plus de facilité à imaginer. C'est-à-dire que, invention géniale. Ouais. Passer la pelle et la balayette, on se baisse par terre, c'est relou, on doit passer la pelle et la balayette. Là, on a une pelle sur un pied, une balayette sur l'autre. Génial.
Putain,
et là, comment tu vides ta pelle dans la poubelle
mais
derrière
mais tu fais Fred Astaire dans ton salon, mec, c'est propre en 5 minutes, quoi.
Non, mais il suffit juste de tenser la tectonique, en fait.
La tectonique, c'était pas le truc que avec les bras.
C'était plus les bras que les jambes aussi. Ouais. Hein.
Mais ils font ça avec les jambes.
On retiendra qu'il a utilisé le mot tectonique en 2019. Et ça, c'est formidable.
On parlera de licenciement à la fin de l'épisode. Hein.
Enchaînons avec le passage piéton portatif.
Non.
Ça, c'est
non.
illégal.
Ouais. Et dangereux,
n'est-ce pas? Alors,
ça
le point de la positif,
ça serait qu'on pourrait traverser partout.
J'avoue, tu le mets sur le périph.
Et...
Oui.
Non, mais t'as cru qu'on était dans la linéa où tu fais des trucs. Si vous avez regardé Arte, quand...
oui, ce qui regarde Arte plus jeune. J'ai rien inventé moi. Je suis pas responsable. Enfin, dans l'idée, ouais, mais non.
Non.
C'est pas légal. Et le transporter, le machin, c'est un rouleau qui doit traverser une route. C'est-à-dire que ça fait un volume comme as. Oui, les étudiants en archi dans le métro avec leur rouleau là. Mm. Bah, tu multiplies ça par 3. Ça fait un trépied en fait, en gros. Donc c'est très pratique de se trimballer ça toute la journée. On a aussi le sac à dos étendoir pour sécher son linge quand on fait du vélo.
Ah. Il y a un truc, et puis ça fait un côté super-héros de ouf.
Oui.
Il faut pas qu'il pleuve, quoi.
Je vais dans ton sens.
Déjà, j'avais même pas pensé, tu vois.
Malin le mec.
Non, mais sinon ton linge tu l'étends chez toi. Enfin, je sais pas.
C'est aussi. Techniquement, monsieur, t'as pas de chez toi, monsieur.
Ouais.
Alors. Hein?
Mais qu'est-ce que tu fais avec un vélo?
Bref, le Shindogu, ça a l'air d'avoir une définition très large, mais pas du tout. C'est une espèce de secte finalement. Qui a des règles très précises. C'est-à-dire que pour qu'une invention soit un Shindogu, il y a 10 commandements que je vais me régaler à vous lire, évidemment. J'espère que vous avez une heure et demie.
De convoitre.
Un Shindogu, ça ne s'utilise pas. Donc il est impératif qu'un Shindogu soit, d'un point de vue pratique, dans le spectre de l'inutile. Si c'est toujours pas clair, c'est toujours normal. Si vous inventez un truc qui s'avère pratique, il n'est pas éligible en tant que Shindogu.
Ah. Ça veut dire que tu donc peux l'avoir, mais en gros, il faut que ça reste chez toi dans ton tiroir.
C'est-à-dire que si jamais tu t'en sers, bah, va le faire breveter et gagner de l'argent.
Qui a reçu des Shindogu à Noël? Camille a levé la main.
Mais ce n'est pas si simple, parce qu'il y a 9 autres règles.
Ah, allez.
Un Shindogu, ça se fabrique, donc il doit exister. On doit le fabriquer physiquement. C'est-à-dire que si on a une idée, ça ne peut pas être reconnu comme un Shindogu. On ne peut pas dire, tiens, si ça, on faisait ça. Non, il faut l'avoir fabriqué, que ce soit qu'on puisse le toucher.
Ok.
Un Shindogu, c'est fondamentalement anarchiste. C'est un objet qui est créé par l'homme qui s'est libéré de la contrainte de produire quelque chose d'utile. Donc ils appellent ça un anti-outil.
Ça dénonce, quoi.
Ouais, bah écoute, c'est pas moi qui ai fait les règles. Un Shindogu est dans le quotidien. Il doit être compris et quasi utilisable, non utilisable, par tout le monde. Une ventouse frontale qui serait destinée au maintien d'un joint de culasse en nitropucale, ça ne peut pas être considéré comme un Shindogu.
Est-ce que je peux résumer juste pour me sortir le mal de tête?
Vas-y.
Il doit être quasi utilisable ou non utilisable par tout le monde.
Ouais. Un Shindogu, on ne peut pas le vendre. Parce qu'il y a une notion de pureté et l'argent, ça saillit la pureté du Shindogu et ça devient un bien de consommation, donc ce n'est plus un Shindogu. On y revient.
On aurait dû vendre du côté de l'art et de la philosophie quasiment.
Exactement.
Putain, c'est
bon. Ah, je vous ai dit, c'est un art hein, à la base. Oui, non, j'ai dit une secte, mais bon.
Ouais, ça marche. Ouais,
c'est bon.
Ouais, ça marche.
Un Shindogu n'est pas là pour rigoler. J'ai traduit comme j'ai pu.
Comme The Rock dans Fast and Furious.
On ne crée pas un Shindogu pour la beauté de l'humour. L'humour n'est qu'un effet secondaire. On cherche une solution à un problème et notre solution, malheureusement, souvent s'approche du débile. On n'y est pour rien.
Comme The Rock.
Un Shindogu, donc, n'a pas de message. Il est innocent, il est fait pour être quasi utilisé, pas pour dénoncer les travers de la société de consommation, comme The Rock potentiellement, j'imagine. Ce n'est pas une œuvre d'art contemporain. On ne peut pas faire un truc et l'exposer dans un musée.
Juste pour savoir si on va pouvoir faire une autre blague sur The Rock la prochaine.
Oui, un Shindogu n'est ni vulgaire ni tabou.
Celui-là est un peu vulgaire.
Il est vulgaire.
Oui, il est vulgaire. Oui. La Société internationale du Shinogu a établi quelques règles de décence. On ne trouvera donc pas parmi les Shinogu une éprouvette en forme de bite, parce que comme ça, c'est cool, elle tient toute seule avec les petites couilles.
C'est haram.
Ça ne fonctionnera pas.
C'est extrêmement précis.
N'est-ce pas ? Je n'ai pas inventé cet exemple,
c'est
encore
qui,
une fois.
Cette Société du Shinogu,
ouais. Michel Shinogu. un Shinogu, donc, on y revient, ça ne se brevette pas. Je l'ai mentionné, un Shinogu, c'est un cadeau pour le reste du monde. C'est pas une idée qu'on veut déposer, breveter ou posséder.
Non, mais blague à part, c'est super beau, en fait. C'est super philosophique.
Ah non, mais c'est mignon.
Mais après, sauf que ça sert à rien.
Le problème, c'est quand tu regardes, il existe des ouvrages qui recueillent les Shinogu. Faut avoir du temps libre, quoi. Mmh. Voilà. Ça se met aux chiottes, potentiellement. Et un Shinogu n'a pas de préjugés, il ne doit pas privilégier une situation sociale ou une religion par rapport à une autre. Vieux et jeune, hommes et femmes, riches et pauvres, tout le monde devrait avoir une chance égale et libre de profiter de chaque Shinogu.
Comme les députés, en fait.
Revenons-en à notre perche à selfie, donc le Shinogu déchu, comme on l'appelle. Mm-hmm. La perche à selfie date du début des années 80. C'est un homme qui s'appelait Hiroshi Ueda, donc un japonais encore, qui travaillait chez Minolta. Je ne sais pas si vous voyez. Marque de matériel de photographie, Minolta. Mm-hmm. Et qui aimait beaucoup voyager. Et un jour, il visitait le Louvre, Cocorico. Il demande à un jeune garçon de le prendre en photo. Et le petit garçon se casse avec son appareil photo, évidemment. De retour chez Minolta, Ueda fabrique une perche avec un rétroviseur parce qu'il n'y avait pas d'écran pour voir des
selfies. Un coup derrière la nuque du gamin.
Okay. Bah non, c'était trop tard. En plus, il était un peu gros, je crois.
Le mec
pouvait pas courir après le jeune garçon.
Ah.
Surtout qu'il connaissait pas potentiellement le... Ça n'a aucun rapport. Bref, il y avait un rétroviseur parce qu'il n'y avait pas d'écran sur les... On pouvait pas voir ce qu'on prenait en photo.
Okay.
Il avait collé un rétroviseur en haut de la perche et Minolta a accepté de le produire.
Ok, donc en fait, il visait le rétro qu'il visait lui.
Non, il regardait le rétro pour voir...
Il a inventé le retour.
Photos, oui, pardon. Okay,
ça
oui,
prend énormément de temps.
Du coup, il s'est racheté un autre appareil.
Bah oui.
Et Minolta a dit... Allez, banco. Ils ont fabriqué le truc. Évidemment, ça a bidé totalement. Et des années plus tard, le brevet a été perdu. Puisqu'un brevet, on le dépose et au bout d'un moment, si ça ne sert à rien, on le perd. Et la perche de Ueda est rentrée à ce moment-là au panthéon des Shinogu. C'est-à-dire qu'il l'avait brevetée, elle n'était plus brevetée. Ok, ça ne sert à rien, mais ça pourrait servir à quelque chose. Donc potentiellement, ça rentre dans le truc. Mais en 2005, un Canadien brevette à nouveau le produit. Et comme c'était en 2005, il rencontre le succès qu'on connaît donc. Ceci est un Shinogu déchu, puisqu'aujourd'hui il est vendu et utilisé. Si quelqu'un la veut, vous pouvez la prendre en partant.
Mais qui est riche,
fait plaisir.
Mais qui est turbo riche. T'avoue ça, la dalle.
Alors, malheureusement, ironie du sort, l'usage d'une perche à selfie est aujourd'hui interdit au musée du Louvre.
Oui.
Donc, tout ça.
et dans beaucoup d'endroits, parce que, ça fait cliché, mais il me semble qu'il y a plus de morts par perche à selfie que par les requins.
C'est vrai.
De toute façon, il y a beaucoup de morts plus que. Oh là là, cette syntaxe nulle.
Plus.
Il y a
plus
beaucoup
par
plus
autre
de
chose
morts
que par les requins.
Par autre chose que. Oui, voilà. Parce qu'en fait, genre il y a très peu de morts par les requins.
C'est genre
ça,
les distributeurs automatiques.
Oui. Ils sont roues libres, mais c'est une catastrophe.
C'est vrai.
On comprend plus rien.
Non, mais on est au courant. Toujours est-il que ça n'a servi à rien. Alors, il y a d'autres potentiels Shinogu déchus. C'était le briquet solaire. Parce que ça se voyait en festival. Apparemment, il y a des gens qui avaient un petit briquet solaire avec un miroir. Mais bon, il faut qu'il fasse beau.
Pour aller. Ce qui est rare en festival.
N'est-ce pas ? Et il y avait aussi la valise scooter. Alors celui-là, pour le coup, à l'époque, il
était
bien. Vous avez peut-être vu des vidéos de start-up avec Liana qui s'assoit sur sa valise.
Mais c'est tellement débile !
C'était trop bien.
Et ce n'est pas commercialisé, donc c'est potentiellement un Shinogu.
Bravo !
Et en fait, c'est le sujet d'énormément de vidéos Facebook virales à la con, les Shinogu.
Et oui, sauf qu'on ne sait pas que ça en est.
Voilà.
On ne citera pas
genre, la valise scooter, c'est le genre de truc qui se partage fois 1000. C'est ce que trop pratique. Non,
on est faux. Trop petit pour se faire des ennemis, t'avoue ça. Mais effectivement, tu as raison.
Néanmoins, je vous invite à vous intéresser au Shinogu parce que vous avez un site officiel qui date des années 80. Donc, déjà, c'est drôle de voir un très vieux site. Et vous avez pas mal de bouquins qui sont dessus. Et vraiment, je vous en ai cité genre 5, mais il y a des trucs. Bref.
Ah, ce qui est rigolo, c'est qu'un objet qui part en tant que Shinogu peut finir en tant qu'objet, on va dire, un peu
tout
star.
Comme et en même temps, ils se tirent une balle dans le pied parce que dans leur règle, ça peut pas devenir une œuvre d'art, mais en même temps, ils ont fait une expo de Shinogu à Paris.
Mais,
oui. Donc.
Mais en fait, c'est super poétique, je trouve. En fait, c'est juste du temps dépensé à faire un truc qui pourrait être utile mais qui ne l'est pas, qui est offert au
T'as
monde.
T'as entendu le troisième commandement, tu trouves le commandement je trouve ça.
Mais moi, je trouve ça super
poétique.
Beau. Mais ouais.
Bah, pourquoi pas.
Chacun sa poésie. Écoute.
Bref,
sa
pour ceux qui ont du temps libre.
Et maintenant que tu as la bouche pleine, on va passer à la
titre. Yes, merci.
Des drôles là. Je suis un paresseux. Je repère un arbre, je croque une feuille, voilà ma façon de chasser.
C'est lent.
La flemme, la flemme, la flemme.
Viens, on sort.
J'ai la flemme, la flemme, la flemme.
Viens, on dort.
Pas la peine, ma mène, la flemme.
Donc, le paresseux, cet animal qui a une tête à la con, vous voyez tous à quoi ça ressemble, ça a toujours l'air défoncé.
Oh, tu te calmes, hein.
Non, mais c'est vrai, c'est encore plus lent qu'un entier en pleine canicule.
Non.
C'est ton patronus.
I'm sorry, what? Carton rouge direct. Carton rouge direct.
Il est seul.
Non.
Si, attends, c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai.
Le paresseux est un animal sale, oui.
Il est sale, il est recouvert d'algues et puis il y a plein d'autres.
C'est pas de l'hippocampe ou du paresseux,
Ah, il est vraiment super. Oui, il est verdâtre.
Recouvert d'algues.
Oui, enfin, c'est
de
pas non plus. Oui, mais j'y reviendrai.
Okay, okay,
j'y reviendrai.
Okay. Mais j'ai hâte.
Je suis déjà fatigué, putain.
Et ça fait 4 secondes.
Oui. En vrai, tout ça, c'est un peu juste des préjugés parce que tout a.
Ah, sans déconner sur les Antillais aussi.
Et oui, bien sûr.
Étonnant. Non, mais tu as suivi un peu l'actualité sur Twitter récemment? Tu veux qu'ils nous tombent des merdes dessus ou qu'on fait comment, là? Non, mais je dis ça comme ça. Ça
va, mais je vous aime, les entiers. Et bref, on va balayer un peu tout ce qui le caractérise. Donc, on commence par la base. C'est un mammifère.
Mmh, jusque-là, OK.
Il mesure entre, j'ai vérifié, 42 cm et 80 cm.
OK.
Des scientifiques sont quasi certains qu'il y a des milliers d'années, le paresseux pouvait avoir la même taille qu'un éléphant. Mais bref, c'est pas le sujet.
Mais c'était les éléphants qui étaient tout petits ou c'était les paresseux?
Non, apparemment c'était énorme. Mais
Dumbo, c'était un dessin animé, hein. Enfin, entendons-nous bien.
Mais bref, il pèse environ 10 kilos. Sur les pattes arrière, là ça devient un peu plus technique. Sur
tellement
les...
de data non vérifiable.
Mais si, si. Sur les
pattes, Jean-Michel à peu près. Quoi.
Sur les pattes arrière, ils ont tous 3 doigts. Et il y a 2 races, entre guillemets. Il y a ceux qui ont 2 doigts à l'avant et ceux qui ont 3 doigts à l'avant.
Jusque-là, ça va.
OK. Un doigt avec leurs ongles, là.
Ouais.
Griffe.
Ça... C'est le mot que je cherchais. Ça mesure entre 8 et 10 cm.
Non.
Si.
Attends, mais...
Griffe c'est... incluse.
Quoi?
Bah, la griffe.
La griffe.
Ah, c'est la griffe.
La, la griffe peut faire 10 cm.
Oui.
Bah, non, oui.
Comme Cruella, quoi. Genre, mais 10 cm, c'est ça.
Mais comment tu t'accroches, sinon? Enfin...
Et oui.
Mais t'as déjà vu en paresseux ou pas?
Mais non, si...
Non, ah, ok, oui, je vérifierai.
Donc,
je ne mets pas en doute.
Je continue. C'est mon quotidien tout le temps avec eux. Ils peuvent dormir jusqu'à entre 15h et 20h par jour.
Non, fais gaffe là tout de suite.
Non, c'est fini. C'était juste. Non.
Bah ouais.
Et ils vivent principalement la nuit. Ils peuvent se nourrir d'un peu tout. Genre, il y a des fruits, des insectes.
Pas des antilopes, je pense.
Non, mais ils mangent principalement que des bourgeons et des feuilles. Parce que c'est plus facile à attraper.
Il bouge moins, quoi.
Ouais.
Ah, ta putain, elle a poussé.
Donc. Donc, ce pauvre petit paresseux, tu vois, tout le monde se fout de sa gueule, mais déjà, rien que son nom, ça lui donne une réputation de merde.
C'est quoi son nom en anglais?
Justement. Ah. Donc, en anglais, c'est sloth, qui veut dire la paresse.
Oui.
En allemand.
Rien.
Il y a sa peur.
Pas une seule seconde.
C'est. Coupe. En allemand, c'est das Faultier.
La flemme.
Qui veut dire l'animal flemmard.
Eh, hey, pas mal.
En espagnol, el perezoso.
La paresse.
Tu vois comme quoi, Taou, ça ne servait à rien de préparer ton sujet. Hein,
bah enfin. Oui, je peux juste faire donc, chier les sujets des autres.
Non, mais attendez, je trouve ça super intéressant.
Non, en plus, espagnol, tu connais le nom scientifique du paresseux.
Mais attends, bah, tu me le diras parce que je ne l'ai pas noté. Donc, el perezoso. Pareza, ça veut dire paresse.
Ouais.
Et oso, ça veut dire ours.
Ok, l'ours paresseux.
L'ours paresseux.
Ah, très bien déjà.
C'est déjà pas mal.
Bah oui.
Et puis en arabe aussi, c'est El Kaslan qui veut dire paresseux.
Et en tchèque?
Alors.
Après. Bon, bien sûr, c'est pas totalement faux. Donc je disais que c'était des préjugés. Mais bon, le gars, quand tu le vois, il est super lent, quoi. J'arrête avec les blagues. Regarde, je la barre. Cette...
Voilà. Elle t'écrit, toi.
Mais j'écris tout, merde. Et donc, il se déplace à une vitesse allant jusqu'à 6 cm par seconde. Mais c'est vrai. Et attendez. Soit, pour Culture 2000, 0,05 stade de foot par seconde.
Alors,
ça vous parle?
Je fucking call bullshit, mais les stades de foot, c'est un air, c'est pas une distance.
Non, mais la distance, la longueur.
Dans stade goal de foot. Goal.
Du coup, à la récré entre deux cartables. Pardon, vas-y.
Donc, juste pour faire un peu la comparaison, 6 cm par seconde, c'est très peu. Comparé
non, à pas de commentaire.
Non, je suis loin là déjà.
Laissez-moi finir ma phrase.
Je suis très
C'est très peu comparé à l'être humain qui se déplace, lui, à 5 km par heure, soit 139 cm par seconde.
Oui.
Waouh.
Voilà.
C'est validé.
Bon. Mais d'après Rory Wilson, c'est un biologiste qui est à Swansea University, qui est spécialisé dans le déplacement des animaux. Super cool comme job. Rory, lui, il dit que c'est fait exprès qu'il se déplace aussi lentement. Parce que c'est sa façon de se défendre.
Il veut voir l'air immobile tout le temps barré.
Non, c'est juste pour savoir ce que je suis.
Il veut voir l'air immobile tout le temps, c'est ça?
Non, alors tu vois, il y a certains animaux comme les singes qui, eux, ils optent pour la rapidité, l'agilité.
T'as Ousmane.
Mais pas le paresseux. Lui, il opte plutôt sur la technique de...
La lenteur, ouais.
On ne voit pas. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il est...
La technique du lâche.
Exactement.
Mais est-ce que c'est pas pour ça qu'il a des feuilles sur lui pour se confondre avec les branches?
C'est pas des feuilles, les algues, justement. Mais...
Oui, mais j'ai essayé.
Mais bon, je reviens. Donc, il faut dire aussi que ses prédateurs principaux sont les léopards. Camille, je te regarde pas beaucoup parce que
mais
parce qu'il y a aucune chance.
Il vit où?
Justement, donc il y a
c'est
le léopard.
C'est comme un CP contre The Rock.
L'aigle arc. J'ai pas entendu. Oui. J'ai pas entendu. Donc, non, mais j'ai vraiment pas entendu.
Jean-Michel Sommer.
Elle va défoncer après.
Donc ses prédateurs principaux sont le léopard.
Il va très vite pour le coup.
Oui, l'aigle harpie et l'ocelot. C'est un gros chat qui ressemble au léopard.
Qui est trop
classe. Donc autant dire ce que je disais, qu'il a zéro chance. Ah ouais. Donc du coup, lui, il fait quoi? Bah, il regarde, il sourit. D'ailleurs, il sourit toujours. Il est toujours en train de sourire, mais même quand il est pas content, même quand il est en danger, même. Mm. Voilà, il sourit toujours. Il ferme les yeux et il se réfugie tout doucement en haut des arbres. Et il utilise justement la tactique de je suis pas là.
Mais alors, tu auras peut-être la réponse, parce qu'il me surprend, c'est que par exemple, le panda, clairement, c'est pas fait pour survivre. Le truc qui se pète la gueule juste en marchant, enfin clairement c'est pas fait pour.
Faut les mettre l'un sur l'autre pour qu'ils s'accouplent.
Mais comment ça se fait que les paresseux survivent mieux que les pandas?
Mais parce qu'ils bougent tellement lentement que les non mais franchement
que le mec arrive, le prédateur arrive avant lui.
Les prédateurs ne le voient pas.
C'est ouf.
Ouais.
Mais c'est surréaliste.
Bah écoute.
Imagine en manif, tu te fais passer pour un tout calme.
Mais en fait ils sont pas paresseux, ils font juste attention.
Ah.
Mais est-ce qu'ils sont capables de se déplacer rapidement du coup?
Non.
Ça nage plus vite que ça.
Ça nage beaucoup plus vite, exactement. J'ai dû le noter quelque part, mais
si,
il nage vite.
Ouais. Ah, on se moque, mais Chouchou prépare.
Allez, bien sûr, j'ai regardé au moins 5 documentaires. Bref, une note de ses capacités entre guillemets, c'est justement sa fourrure, qui est en soi super intéressante. Il y a plusieurs questions qui... Je crois que ça, c'est une blague, donc je vais... exactement, c'était une blague très nulle. Je te montrerai après.
Ouais, on les regardera
donc,
après les deux.
Déjà, ces poils sont... Il y a des blagues partout. Ces poils sont orientés dans l'autre sens que les autres animaux. En gros, enfin, nous donc, aussi, ils sont vers l'arrière.
Ouais, si on le caressait normalement, ce serait un rebousse-poil. Ouais.
C'est pour que quand il pleut, bah, l'eau... plus facilement parce qu'il est toujours
ok,
tu vois,
sérieux,
okay. Il est toujours accroché du
tout
coup,
pour la flemme.
Ah ok, cool, voilà, il n'a pas besoin de
mais ça c'est vrai ou c'est des théories que toi non, tu
franchement,
as
c'est vrai,
développé
c'est vrai. Mais okay, je te
fais confiance
et chaque poil est plié en deux pour pouvoir laisser les algues bien s'accrocher et pousser dessus.
Tu as toute notre confiance, là, je te jure.
Excuse-moi, j'ai peut-être pas, avec toutes les informations que tu as données, j'en ai peut-être raté une. Il vit où, cet animal?
En Amérique latine, je ne l'ai peut-être pas dit.
Non.
En Amérique latine.
Mais où en Amérique latine?
Clairement.
Tu vois l'Amérique?
Oui, c'est la partie latine. Hein.
Voilà. Et du coup, donc, une étude a montré que la fourrure du paresseux est le lieu de résidence de tout un écosystème.
Il y a
des scarabées, des papillons, des cafards, des champignons et des algues.
Ça, c'est le sbeul.
Bien. Un peu comme les dreads de...
T'as oublié de la barrer celle-là.
Mais vas-y, continue.
Bon, il faut croire en fait que ce nid de microbes est bénéfique pour le paresseux parce que certains de ces champignons sont des composants bioactifs, c'est-à-dire qu'ils agissent sur son métabolisme. Elles les protègent de certains parasites qui causent le paludisme, mais aussi, alors là, la trypanosomiase américaine. Qu'on appelle aussi la maladie de Chagas. C'est peut-être pas la bonne prononciation, mais ça s'écrit comme ça.
D'où les ongles très longs.
Et la fourrure.
Bref, c'est des parasites qui rendent le cœur un peu plus faible, qui te donnent des troubles digestifs terribles, mais aussi des problèmes neurologiques jusqu'à ce que tu crèves.
Ok, donc c'est pas voilà. Cool, quoi.
Non. Et du coup, bah, leur fourrure, ça leur permet de contrer tout ça. Bref, il est costaud quand même, ce paresseux. Une autre de ses spécialités, c'est qu'il sait se retenir.
Bah oui, parce que le temps d'arriver aux chiottes.
Pourquoi tu me regardes là,
t'as clairement pas intérêt à être pressé, quoi.
Non, il va pas aux chiottes souvent.
Bah oui. T'imagines le temps de l'aller-retour ?
Non, mais comme je te l'ai dit avant, il pèse 10 kilos. Donc 10 kilos, c'est un pack d'un litre 5
d'eau. Pas de marque, ouais.
Voilà. Et son estomac peut faire le tiers de son poids. C'est énorme. C'est le. Bah attends.
Je sais rien.
Tu prends un paresseux, tu le coupes en trois, ça fait un estomac.
Pourquoi tu le coupes en trois déjà ?
Mais je sais pas, c'est juste pour
bah,
ce. Voilà. Donc, un tiers. Du de son poids, ouais. C'est le double comparé à un autre animal de sa taille. Vous êtes encore là ?
Je suis désolée, j'ai fait un baquet, là. Je suis perdue, j'arrive plus. J'imagine un paresseux coupé en morceaux. Mais...
Sachant que par 38 degrés,
le paresseux fond.
Il y a un trou dans la baignoire, Tom doit la remplir en une heure et demie.
Avec des paresseux.
Donc, comme la vache ou n'importe quel autre ruminant, il a 4 estomacs.
Ah.
Il a 4 estomacs, ce qui lui permet de digérer un maximum et d'extraire toutes les substances nutritives et de déféquer juste une boule fibreuse.
Très bien.
Yes.
Il a un processus de digestion tellement long que...
c'est 4 fois par an.
Presque, enfin non, c'est un peu plus, mais en fait, c'est plus lent que lui. Il y a une étude qui dans des années 70 qui a montré qu'entre le moment où il mange quelque chose, où il va aux toilettes...
Enfin, où il fait ses déchets...
Il
défait
ouais.
Parce qu'il ne va pas aux toilettes physiquement.
Non, mais voilà, où il chie, ça dure 50 jours.
Quoi ?
Oui. Oh la vache !
Non.
Quoi ?
C'est énorme.
Mais attends, imagine, il a avalé ses clés par erreur. Il doit attendre 50 jours avant de les récupérer.
Bref, tout ça pour dire qu'une fois par semaine, il fait son petit caca hebdomadaire. Et c'est un moment très dangereux pour lui.
Parce qu'il ne peut pas bouger, parce que ça dure 4 heures.
Mais non, parce qu'il pose sa pêche en bas de l'arbre.
Pourquoi ?
C'est con.
Justement, très, très bonne question. Juan,
on est merde.
Les scientifiques ont essayé de trouver une explication à tout ça. Et pourquoi est-ce qu'il risque sa vie pour chier, quoi ?
Mais l'amour du risque, simplement, pour vivre libre.
Je suis pas sûr. Mais il y a 4 théories.
Oh putain. Allez, salut.
Alors,
première théorie.
La première.
T'as checké le chrono ?
Oui, j'ai bientôt fini. La première théorie, c'est que certains disent que c'est parce que chier en l'air, ça peut faire trop de bruit et attirer ses prédateurs.
Mais qu'il a ses parpaings.
Ah, bon, on m'a toujours dit ça. Ouais.
Attention en bas.
Bon, la première, autant vous dire que moi, j'y crois pas.
On est hyper scato depuis un quart d'heure, là, quand même.
Ah bah. Donc, la deuxième théorie, c'est qu'il chie en. Il chie toujours en bas de l'arbre. S'il le fait, c'est pour donner une sorte d'engrais aux arbres.
Mais il tombe au même endroit s'il le fait d'en haut.
Bah non.
C'est une théorie. Okay. Respectons les théories.
En fonction du vent, je sais pas.
Exactement. C'est écolo, donc why not, j'ai envie de dire. La troisième, c'est que ça permet à toutes les bêtes de son écosystème qui logent dans sa fourrure de pouvoir pondre les œufs dedans.
Ok, pourquoi ? Mais
je sais pas pourquoi. Parce que voilà,
très bien.
C'est une théorie, j'ai pas checké, voilà.
Ah, mais c'est con.
Et la dernière hypothèse, c'est que, et c'est celle-là où les scientifiques sont quasiment tous d'accord.
Ah,
donc,
la fameuse.
Accrochez-vous. C'est que ça signale aux autres paresseux qu'il y a quelqu'un sur cet arbre. Et la femelle qui cherche quelqu'un pour Kamanasmana.
C'est peut-être démodé, mais un bouquet de fleurs.
Elle peut choisir sa zone en voyant la pêche des autres paresseux.
Oh, monsieur est bien doté.
Exactement, et ça lui laisse la possibilité de voir qui a chié quoi, qu'est-ce qu'il mange, s'il est en bonne santé.
Attends, il mange des framboises, le mec a de la thune, quoi.
Ça, c'est stylé Tinder dans la jungle.
C'est
bouge, là,
une sorte de Tinder pour paresseux. Je l'ai écrit.
Vous faites les mêmes blagues.
Et quand elle choisit sa langue, ça, ça.
Ne regarde pas. Ça,
son
quand
compagnon.
Elle choisit son sa compagnon. Zone. Elle lance un cri.
Qui Juan, a fait ça te... Qu'est-ce que c'est que ce bug?
Juan, si on peut écouter.
Non,
s'il te plaît.
Ta housse va cracher.
Titre.
Et donc, quand elle a trouvé son âme, elle se pose dedans, elle fait ce fameux cri, et les mâles volontaires y vont.
Non, mais c'est super archaïque, quoi. Ben... Le mec, il chie au pied d'un arbre, et l'autre, elle gueule.
Putain, et enfin, bref.
Le romantisme a fait 4 saltos dans sa tombe, là. Enfin,
c'est sur cette belle histoire d'amour que ma chronique se termine.
Bon, on a perdu ta housse.
On a perdu ta housse.
Ta housse est partue. J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle.
Je prends ça comme un compliment. Merci.
J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle, Hicham. Je crois qu'on va devoir arrêter la saison ici parce que je suis pas sûr que tu fasses un meilleur sujet dans les.
Oh, attention.
Oh, t'inquiète pas, ça va venir. J'attends ton sujet sur le tapir d'ailleurs.
Le
tapir.
Je connais pas le tapir.
Bah, on en reparlera. Okay.
Je suis extrêmement déçu, cela dit, que tu n'aies pas parlé du fait que régulièrement il meurt parce qu'il tombe. Les paresseux, ils tombent des arbres. Parce qu'ils n'ont même plus la force de s'accrocher, ils s'endorment.
La flemme. Non, mais alors, magnifique.
Merci, merci.
Tout le monde respire profondément.
J'ai par contre très très peur maintenant de me balader dans une forêt d'Amérique latine.
Tu ne fais pas ça régulièrement, donc c'est pas grave.
Ouais, mais quand même. Parce que bref, ça m'inquiète.
Bref,
est-ce qu'on passerait pas avec
ton
sujet?
Mais en tout cas, tu nous as enchanté. Un peu comme Mylène Farmer, c'était. Oulala.
Non, désenchanté Mylène Farmer. Hein.
Oh. Allez.
Le spectacle va commencer. Et ce spectacle est unique.
Comique, on rigole.
Je pourrais peut-être improviser un peu.
Et vous parlez tout le temps, on se croirait au théâtre.
Alors, comme je vous l'avais dit, on va parler de la Commedia dell'arte, et j'en avais parlé rapidement en parlant du sujet sur les clowns, parce qu'effectivement, les clowns, comme vous l'avez vu, il y a une petite référence à la Commedia dell'arte.
Avec Scannarelle, c'est ça?
Non, avec le clown du Auguste et le clown blanc, qui est basé sur le Pierrot. Mais c'est pas, on va continuer. Camille, je te fais confiance pour me corriger sur l'accent italien, que je n'ai pas, et sur les références historiques. J'ai celle que j'aime, et si tu as des précisions, je prends toujours, je te fais plus confiance qu'à moi-même.
Ça marche.
C'est clairement du pragmatisme, hein, on va pas se mentir. Donc, Commedia dell'arte, déjà, bon, c'est un style théâtral qui est apparu au milieu du XVIe siècle en Italie. Et j'ai fait le choix de peu vous parler du contexte historique et plus de ce qui fait la force de ce style, on va dire, un peu artistique, et de ce que ça nous a amené aujourd'hui, parce qu'en fait, ça a des retombées, des répercussions qui sont monstrueuses, et sur des choses qu'on peut voir encore aujourd'hui. Donc ça, c'est fou. C'était largement inspiré d'une forme d'art donc à l'époque au XVIe siècle, donc d'une forme d'art qui avait lieu au IVe siècle avant Jésus-Christ, donc ça date un petit peu, en Italie, notamment qui est apparu vers Rome et qui s'appelait la comédie Atellane. Donc ça vient d'une petite ville du coin de l'époque. Et en fait, c'était des petites scénettes qui mettaient en scène des personnages assez caricaturaux. Donc il y avait assez peu de personnages, ils portaient des déguisements, des masques. Et voilà, il y avait des petites scénettes, un petit peu satiriques. Et ça a été très largement inspiré par ça. Plutôt que de commencer par vous parler de la Commedia dell'arte, je vais vous parler de ce qui existait au moment où la Commedia dell'arte est apparue. Qu'est-ce qui existait avant? En fait, c'était la Commedia erudita. Accent, ça va?
Oui.
Concordance historique, ça va?
Ça passe.
La Commedia erudita, c'est quoi? En fait, c'était un des arts théâtraux de l'époque qui régnait en Italie. Et c'était une forme théâtrale plutôt élitiste. Donc, c'était plutôt pour la cour, pour les invités de la cour. Donc, c'est des pièces comiques, mais réservées aux gens des châteaux et à leurs invités. C'est des pièces qui étaient globalement très écrites, avec des costumes élaborés. Mais ça pêchait étrangement autre part, c'est que les pièces n'étaient pas jouées par des professionnels, mais par des amateurs, potentiellement par les personnes de la cour, par les personnes qui recevaient. Donc c'était une façon de se mettre en avant et de bien recevoir ses hôtes que de jouer une pièce de Commedia erudita. Je double-check avec Camille.
Ouais, je vois ça.
Je m'attends à attaquer à tout moment.
Ben là, ça va.
C'est pas mon genre.
Maintenant, comparons à la Commedia dell'arte. Donc, en fait, la Commedia dell'arte, elle se différencie de la Commedia erudita en quasiment tout. Donc, ça reste du style comique. Ah, bah oui, bah, c'est intéressant. Mais c'est apparu au même moment. Mais donc, c'est toujours un style comique. Mais en fait, c'était des troupes qui ont décidé, enfin, qui allaient de ville en ville pour donner des spectacles sur les en public, sur les marchés, dans la rue, dans les théâtres en plein air, etc. Et c'est des spectacles vivants qui, avec beaucoup d'échanges avec le public. Et le nom Commedia dell'arte, en fait, n'est apparu qu'au XVIIIe siècle. Et avant d'être appelé comme ça, on l'appelait aussi Commedia all'improvviso, donc comédie improvisée. Et ça, c'est un des gros points forts, enfin, un des gros points distinctifs de la Commedia dell'arte, c'est qu'il y avait une très, très, très importante place à l'improvisation. Donc, au lieu d'avoir une pièce où tout était écrit, avec chaque mot, chaque phrase, chaque réplique, en fait, les pièces se basaient sur une trame. Donc une trame qui dit, voilà, il y a deux mecs qui se rencontrent, ils s'embrouillent, après il y a l'amant qui vient, et après à la fin ils se re-embrouillent, et à la fin tout le monde est heureux. Ça c'est la trame. Et à partir de là, bim, c'est parti, les comédiens improvisent, et il se passe des trucs. Sur ce que je viens de dire, il y a deux choses intéressantes, enfin, j'espère d'autres, mais on va commencer par deux. Le premier truc, c'est j'ai dit comédien, en fait c'était comédien et comédienne, parce que pour une des premières fois, les rôles de femmes étaient joués par des femmes, ce qui était plutôt rare à l'époque. Ça peut paraître logique aujourd'hui, mais c'était le 16e siècle, donc c'est quand même un truc assez fort à l'époque. Et en plus, on peut se dire, bah tiens, si on part sur juste une trame et de l'impro, ça peut être le bordel. Mais en fait, contrairement à la Commedia dell'arte, t'as vu,
je travaille un petit peu mon accent. C'est de mieux en mieux.
Donc, contrairement aux autres formes d'art théâtral qui existaient à l'époque, d'art théâtre, qui est la concordance, c'est bonne. En fait, c'était le principe de la Commedia dell'arte, et ça tire d'une certaine façon son nom de là, c'est que c'était les comédiens et comédiennes étaient des professionnels. Donc ils avaient certes une trame, mais ils travaillaient leur savoir-faire, c'était leur travail de tous les jours de jouer la comédie. Donc c'est pour ça que ça ne partait pas indécemment en couille. Cette mécanique d'improvisation, donc, elle est profondément inscrite dans l'ADN de la Commedia dell'arte, c'est vraiment une de ses grandes forces, et ça a plusieurs avantages. Premier, c'est que déjà, il n'y a pas besoin d'écrire des pièces entières. Parce que écrire une pièce, ça coûte super cher. Il faut des auteurs, autrices, talentueux. Ne fera pas ta housse, t'as vu. Non, mais auteurs, autrices, talentueux, talentueuses. Ça demande beaucoup de boulot. Ça demande le fait de revoir son catalogue régulièrement. Donc, il y a déjà un gros point fort. Deuxième point, c'est qu'avec une trame, en fait, vu qu'ils allaient de ville en ville, ils pouvaient s'adapter à l'actualité et aux spécificités de la ville. Donc, déjà, ça fait. C'est une façon de se faire aimer par leur public local. Genre, ah, ça va à Clermont-Ferrand, il se passe des trucs de ouf chez vous. Non, bon, c'est pas vrai, mais...
On n'a rien contre Clermont-Ferrand, je précise, parce qu'on le pose trois fois.
Non, mais ça va bien se passer. Troisième truc, c'est que, bah, en fait, une troupe avec une trame, en fait, elle peut se produire plusieurs fois au même endroit avec la même trame, parce que qui dit même trame, bah, dit pas forcément même pièce. Il peut se passer des choses différentes avec la même trame, et c'est aussi pour ça que les troupes pouvaient se passer une trame, bah, d'une troupe à l'autre. C'est que c'était vraiment les comédiens, comédiennes, leur façon de jouer, leur style, qui allait faire que la pièce allait être différente. Oui. Donc ça créait de la nouveauté, et ils pouvaient, bah, jouer plusieurs fois sur le même marché, sur la même ville, et toujours attirer les foules. Un des gros trucs aussi qui fait toujours la particularité de la Commedia dell'arte, c'est les personnages. Les personnages, contrairement au théâtre, on va dire, plutôt moderne, je ne sais pas si c'est la bonne appellation, mais celui qu'on connaît plus particulièrement, il n'y a pas une foultitude de personnages, il n'y a qu'un nombre relativement défini de personnages qui revient dans toutes les pièces de Commedia dell'arte.
Vous en rappelez peut-être un peu de l'école.
L'école jadis.
Il y en a qui ont la Commedia dell'arte.
Je suis persuadé qu'on en a parlé à l'école.
À l'école.
Alors moi, dans le programme. Je pense aussi, mais j'ai tout oublié.
Les profs dans la salle.
Je pense qu'il y en a quelques-uns.
Oui, il y en a. Alex. Il y en a.
Pas de science.
Pas des profs de science. Alors, est-ce que vous savez à lui des catégories des personnages Commedia dell'arte? J'ai pas tous vous les citer parce qu'il y en a un certain paquet et j'en parlerai un peu à la fin. Mais il y avait quatre grandes catégories.
Les drôles.
Pas exactement. Non, il y a les plus importants, on va dire les plus représentatifs.
Il y a les amoureux, non? Enfin, il n'y a alors, pas toujours un binôme d'amoureux.
Ouais. Alors ça, c'est ce que j'ai mis à la fin. Donc je me permets de commencer par notre. Okay. Ça ne t'embête pas. Il y a les annies. Les annies, ce sont les valets, les femmes de chambre. En gros, ce sont les hommes et les femmes du peuple. Mais ce sont aussi des personnages intéressants parce que dans ces personnes du peuple, c'est souvent elles qui vont mener l'intrigue. Donc c'est ceux qui vont relancer, qui vont être un peu espiègles, etc. Donc ça va à la fois de la personne super ingénieuse, de basse classe sociale, mais super maline, au simple d'esprit, on va dire.
Tu aurais des exemples de personnages que tu n'as pas noté?
J'en parlerai juste après. Mais alors si Scapino, par exemple, qui a donné Scapin, c'est un...
Oui, c'est ce que j'allais dire, ça sent vachement à Molière, ce que tu es en train de dire.
Exactement. Ouais, ouais. Bah, ça va être dans le parti héritage. Mais on a notamment, tu parlais de Figaro. Figaro, c'est clairement un Zanni, sans aucun doute. Les Zanni, alors, ça a vraiment très fortement marqué la Commedia dell'arte, parce qu'on l'a appelé pendant un temps, en tout cas en France et en Europe, la comédie des Zanni. Parce que c'était, ces rôles de valets, c'était eux qui menaient toute l'intrigue, et c'est eux qui avaient, c'est une force, une façon de redonner le pouvoir à ces profils. Dans les profils, on a également les vieillards. Donc, en fait, c'est une représentation des notables de la ville, donc des médecins, des avocats, etc. Donc, ils ont généralement un air pompeux, mégalo, un peu bedonnant. Il y a également les soldats, donc du troufion de base au capitaine, plutôt belliqueux, courageux mais pas téméraire, et les amoureux. Donc, il y a plusieurs couples qui se font et qui se défont. Je vous rappelle le sujet sur les clowns où le Pierrot et l'Auguste se bastonnent, on va dire, pour la petite.
Souvent, le soldat va vouloir la main de la fille du couple d'amoureux, mais avec l'aide des valets qui vont aller essayer de.
Voilà, je vous rappelle le mariage de Figaro qui illustre clairement ceci. Donc là, on voit bien que ce sont des rôles qui sont. Enfin, des rôles qui sont clairement caricaturaux. Donc, ils ont des caractères bien définis, généralement un costume très simple, mais qui permet de les identifier très rapidement, parce qu'ils reviennent dans toutes les pièces, donc il faut qu'on puisse les reconnaître. Et donc, il y a certains personnages qui portent aussi des masques, on l'a aussi connu comme comédie des masques, pour forcer leurs traits, alors surtout les amis, en l'occurrence, mais pour leur donner des traits très marqués, plutôt espiègles, certains un peu diaboliques, donc notamment Scapino et Pantalone, je crois, mais on en parlera juste après. Mais bon, là, on voit que la Commedia dell'arte, elle va abuser des mécaniques de comique burlesque et satirique. C'est vraiment la comédie satirique et politique par excellence. C'est censé faire rire en se jouant de tout et de n'importe quoi. Et donc, on va jouer sur les extrêmes, les clichés, le rythme, la dynamique. C'est un spectacle vivant. Si vous voulez des exemples, il y a un peu l'exemple dans un épisode, dans un petit épisode de Kaamelott, où il y a un petit spectacle de marionnettes qui se moque un peu du roi, des chevaliers, etc. C'est exactement ça, en fait. C'est jouer de l'actualité pour faire des petits gimmicks et faire rire un petit peu tout le monde, le haut peuple comme le bas peuple. Et honnêtement, ça avait l'air trop classe. Moi, j'aurais trop aimé voir ça. Excusez-moi.
Très bien.
Dans le côté comique, il y avait un truc qui ressortait notamment dans la Commedia dell'arte, ce qu'on appelle les Ladi. L-A-2-Z-I, je ne sais pas comment ça se prononce, disons L-A-D-I. En fait, c'était globalement des gimmicks. C'était soit à un personnage, à plusieurs personnages, mais c'était des petits gags récurrents qui revenaient régulièrement dans un peu toutes les pièces, quasiment tout le temps. Et c'est des gags qui se sont créés, qui se sont passés de troupe en troupe, et qui, au final, plaisaient beaucoup au public, donc ils les attendaient avec impatience. Si vous voulez un exemple pour celles et ceux qui sont assez vieux, assez vieilles, le gag de
attention
Guignol.
À ce que tu vas dire.
Le gag de Guignol qui frappe son pote avec un bâton, ça revient dans quasiment toutes les pièces avec Guignol, le théâtre de marionnettes.
Ah putain, j'étais resté sur Canal Plus.
Bah justement, on en parlera après. Non mais ce genre de truc, Guignol finit toujours par frapper quelqu'un, un gendarme ou un niafron, je sais pas quoi. Ça, c'est un ladi en fait, et ça vient de là. Voilà.
Très bien, merci. Mais
pardon, j'ai juste la référence du premier spectacle sur scène au Palais des Glaces d'Éric et Ramzy pour vous dire à
quel
point
il y a front. Voilà. Oui,
il y a front. Okay.
Des clous, toi, et des clous, moi.
Merci.
Bon, merci. Salut.
Pour finir, je vais vous parler de l'héritage de la Commedia dell'arte parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui m'a. Vous savez que je me projette beaucoup dans mes sujets et que c'est vraiment assez ouf. Mais en fait, personnellement, en tout cas, j'ai beaucoup consommé de contenu culturel. Oui, non, pas de. Yes! Pas de substance, ma mère écoute, je rappelle. Consommer, et vous aussi j'imagine, de contenus qui ont très fortement été
influencés,
merci. Je cherchais dans mes notes, c'est beaucoup trop galère. Mais influencés par la Commedia dell'arte. Donc en deux siècles, en fait, la Commedia dell'arte a un succès retentissant, parce qu'on sait que c'est parti donc, de l'Italie, mais ça a eu un succès retentissant même en Europe, ça s'est développé en France, en Angleterre, etc. Et ça a très largement influencé les formes d'art à venir en Europe, et notamment justement Molière, Shakespeare, c'est avéré et reconnu qu'ils ont très largement été influencés par ça. Et c'est fou parce qu'on nous parle beaucoup plus largement de Molière et de Shakespeare, mais l'influence est extrêmement forte sur leurs premières pièces, sur leurs pièces les plus connues. On parlait des fourberies de Scapin, il n'y a pas photo. Scapino, c'était un des gros personnages de la Commedia dell'arte. Ouais.
C'est vrai qu'on a tendance à les prendre comme point zéro.
Exactement.
C'est eux là, qui m'ont influencé, machin, qui ont influencé Billy, qui ont influencé un truc. Alors qu'en fait, il y avait un truc avant eux.
Les patrons du domaine, mais en fait, il y a une paire de troubadours. Et surtout, moi, ce qui me rend ouf, et c'est exactement ce que j'ai mis là, c'est que, en fait, c'est une paire de troubadours qui faisaient le tour des marchés. Et c'est parti comme des spectacles en plein air. Et ça a influencé les plus grands pontes.
Molière, ça, il l'a fait, hein. C'est même ce qu'il a fait pendant très longtemps, d'aller de marché en marché avec sa troupe et de faire de l'impro.
Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'eux sont partis comme des troubadours de marché et ils ont réussi à résonner dans l'Europe. Et je trouve ça assez beau au final.
Oui, c'est sûr, même mais si on s'en rappelle pas, c'est parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de traces écrites là-dessus. Enfin, oui. C'était des anonymes, quoi.
Je ne vois que la poésie de la chose. Non, en fait, je dis pas que c'est pas cool qu'ils aient pas la renommée qu'il aurait dû, mais je trouve ça beau qu'ils aient réussi à transmettre, transpirer dans autant de choses. On parlait de Molière, Shakespeare, donc ils ont réutilisé des personnages plus ou moins directement influencés par les personnages de la Commedia dell'arte. Je vous les ai pas tous listés parce qu'il y en a une paire et je pense pas que ce soit le plus
Molière,
intéressant.
Molière, c'était plus que moins. Hein.
Ouais. Notamment, voilà, on parlait de Scapino qui est un personnage de la Commedia dell'arte.
Il a enlevé une lettre, yes.
Non, mais c'était commun parce que Commedia dell'arte, c'est normal d'utiliser le même personnage. Et je vous passe les détails historiques, mais il y a des troupes de Commedia dell'arte qui sont venues en France pour en résidence pour jouer pendant des mois.
En gros, ce qu'il a fait, c'était éthique, c'était pas du plagiat, c'était dans la tradition théâtrale de l'époque.
C'était un hommage. Gad Elmaleh, on te regarde. donc les personnages en fait ont donné beaucoup plus de références dans la culture qu'on ne peut potentiellement penser. Donc on a parlé de Scapino, Arlecchino, on en avait parlé dans le sujet sur les clowns, ouais. Ça donnait Harlequin, donc une des références du clown Auguste, Harley Quinn, la meuf un peu badass, ouais, de Batman.
Qui a donné aussi les bonbons dans les Uber.
Oui, exactement, n'hésite pas. Continuons comme ça. Si je vous dis un des autres personnages qui s'appelait Pantalone, j'en ai parlé tout à l'heure.
Oui.
Ça donnait... Le mot
Pantaléon. Non mais sérieux, pantalon.
Oui. Ah, c'est de là que vient le nom pantalon.
Ok.
Voilà.
Attends, quoi? Vraiment?
Ouais, bien sûr.
Mais pourquoi?
Mais parce qu'il avait un habit particulier qui a donné ce
mais truc. Genre les pantalons, ça n'existait pas avant lui?
Non. Ils avaient c'est lui qui a donné le nom.
C'est les culottes. Oui, c'est ça.
Ah, c'est une culotte.
Blablabla.
Oui, mais
calme-toi. Je ne
sais toujours pas pourquoi pantalon.
Bah, c'est comme. Enfin, c'est quel autre
Gilles,
personnage?
Quoi, le mec qui n'a pas la réponse ou quoi?
C'est pas Sosie ou comment il s'appelle?
Ah, bah, ne cherche pas des réponses que tu n'as pas à travers moi.
Si, bien sûr. Bon, vous aurez peut-être dans le public, mais un des personnages qui avait un Sosie dans une vieille pièce théâtrale.
The Rock.
Non, mais bref. Passons. Un autre. Alors, celui-là, si vous allez. Enfin, vous pouvez avoir la référence, mais il faut savoir pourquoi. Scaramucci.
Scaramouche. Mamma mia, mamma mia.
Oui, très bonne référence. Dans Bohemian Rhapsody de Queen, il cite Scaramouche, qui est la version, on va dire, un peu anglicisée de Scaramuccia. Et en fait, quand il cite ça dans Bohemian Rhapsody, c'est Scaramouche, en fait, c'était un soldat dans la Commedia dell'arte. Donc, cliché du courageux mais pas téméraire. Et c'est pour ça que dans Bohemian Rhapsody, il le cite au moment où, on va dire, il défait ses ennemis, au moment où, on va dire, il les fait fuir. Donc, ouais, les mecs, ils vont chercher la merde et il les fait fuir. Et là, Scaramouche, mais... Donc, vous saurez que Freddie Mercury citait un personnage issu de la Commedia dell'arte. Ça me fait plaisir.
Pour moi, c'était un dessin animé aussi. Mais
Quiz?
Non, Scaramouche.
Scaramouche?
Ça me dit. Enfin, il y a un truc qui
me dit. Pas la réponse. Nous en parlerons en barre tout à l'heure.
Ouais, c'est un Pokémon. Non, mais...
Et maintenant, un truc facile. Pulcinella.
Polichinelle.
Oui, deux expressions basées sur Polichinelle.
Polichinelle dans le tiroir?
Oui.
J'avais pas avalé ma gorgée.
Alors, Polichinelle dans le
tiroir. Et secret Polichinelle. Ah!
Oui, les deux, très bien. Donc, Polichinelle dans le tiroir. Alors, Polichinelle, c'était un notable plutôt riche, un peu bossu, etc. Enfin, c'est le cliché du notable un peu mal foutu. Mais non, mais c'était des clichés qu'ils utilisaient pour les mochiser un petit peu.
Ah oui.
Ils avaient de la chance par rapport à leurs revenus financiers, mais ils étaient détestables physiquement et humainement. Ouais. Comme je disais, c'est satirique.
Comme M. Burns.
Ils étaient courbés.
Exactement.
Ils étaient joués comme ça.
Non, mais exactement. Et surtout, Pulcino, Camille, tu vas peut-être nous dire ce que ça veut dire en italien.
Oxmo.
Ah, c'est.
Ah, Pulcino.
C'est un poussin.
Exactement. En fait, si on prend une des racines de Pulcino, c'est avoir un poussin dans le ventre. Donc avoir un bébé dans le ventre. Et donc, le secret de Polichinelle, en fait, Polichinelle, il était aussi un peu ouf dans les intrigues. Ah non, Polichinelle, je sais pas si c'est un notable. Bref, je suis pas sûr. Non, je vais pas vous dire de bêtises, je sais pas si c'est un notable ou un zanni. Mais en fait, le secret de Polichinelle, c'est un secret que tout le monde connaît, mais que personne ne se dit. Globalement.
Ouais.
C'est pas le même sujet qu'Arwan, ça. Truc pas inutile.
Mais. On a bientôt fini, c'est bientôt l'apéro, quel monde. Mais voilà, donc ça c'est issu aussi, on peut l'utiliser pas tous les jours, sauf si vous avez 60 ans, mais au moins maintenant vous saurez d'où ça vient. Et maintenant pour finir, d'autres choses qui sont issues de la Commedia dell'arte, c'est clairement pas exhaustif, mais moi c'est des choses qui ont pu me toucher, et je trouve ça passionnant que, encore une fois, une bande de saltimbanques au XVIe siècle ait pu encore avoir des échos sur ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc c'est aussi grâce à la Commedia dell'arte qu'on a pu avoir les matchs d'improvisation, les spectacles de marionnettes, le vaudeville. Tout ça, tous les types de spectacles, pardon, qui ont des personnages très définis avec des mécaniques assez rapides qui jouent sur la satire, sur le rythme, sur plein de choses. Et voilà, c'est issu de là et je trouve ça ultra fort. On a notamment tu en parlais tout à l'heure, mais ça s'appelle les guignols de l'info. C'est globalement de la putain de Commedia dell'arte. Parce que il y a des personnages récurrents, des caractères forts, bien définis, des gimmicks qui reviennent tout le temps avec la World Company et trucs comme ça. Une trame globale, c'est un journal télévisé à chaque fois, mais il se passe des choses différentes à chaque fois. Et c'est enrichi par l'actualité. Donc c'est clairement de la putain de Commedia dell'arte.
On se moque des personnages puissants.
Comment ?
Et on se moque des personnages puissants.
Et en plus, c'est clairement de la satire, de la parodie. Enfin, c'est assez fou. Personnellement, alors c'est purement personnel, mais des spectacles comme Puppet Mastaz, excusez-moi de kiffer le bon son, mais ça vient aussi de la comédie dell'arte. Donc une bande de marionnettes qui font du hip-hop avec des personnages bien définis et qui font de la satire sur notre monde.
Gorillaz, j'adore.
Puppet Mastaz, calme-toi tout de suite. Et pour finir, je dirais donc que la comédie dell'arte, c'est la culture mise à disposition du peuple par des professionnels. C'est le rire, c'est la satire, c'est l'échange avec le public, des cadres faits pour qu'on en déborde et un spectacle vivant par excellence.
Tout ça pour dire que...
Franche-Comté.
Putain, tu viens de me faire perdre de l'argent.
Surtout que c'est la... Non, mais c'est la première fois que c'est...
Alors, que ça arrive aussi tard.
Alors, ça va être titré, mais calmez-vous. C'est la première fois que ça vient qu'au bout d'une heure 35.
Oui, c'est ce que je dis, j'ai essayé de retenir, et voilà. Tac.
Mais non, mais 1h35, mais bien. Grosse amélioration. Parce que je vous rappelle que le premier épisode, c'était 2 minutes.
Oui.
Mais ça fait pareil pour les mecs, t'inquiète pas. Écoutez, je pense que cet épisode touche à sa fin.
Il faudrait, ouais.
J'espère que vous allez toujours bien dans cette salle. Nous, on a pris un plaisir incommensurable. Ça va, Taous ?
Oh, bah, j'étais insupportable. Oh, bah, très heureuse.
Vous avez vu, les places aujourd'hui étaient à 1 euro. Et c'est un de nos objectifs aussi, c'est de rendre cette partie de la culture la plus accessible possible. De fait, on avait commencé à parler en fin de saison 2, on va essayer de trouver des façons de financer ce podcast parce que vous vous rendez bien compte, ce genre de théâtre, c'est pas facile de les avoir tous les jours. Mais notre idée, c'est qu'on sait que parmi vous, on a pu discuter avec vous de temps en temps à des soirées, à d'autres moments ou avec nos amis. On sait que c'est pas forcément les personnes qui ont le plus de moyens qui donnent le plus et on veut pas forcément priver des personnes qui auraient besoin de, on va dire, de 10 euros pour une place de théâtre, les priver d'autres choses. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver d'autres moyens de financement, donc potentiellement avec du sponsoring, vous verrez peut-être dans les mois à venir, pour faire en sorte qu'un maximum de choses qu'on vous propose soient gratuites. Donc voilà, c'est notre objectif, on espère que vous apprécierez. Si c'est non, dites-le très clairement, parce qu'au moins ce sera réglé. Mais voilà, on veut essayer de rendre ça accessible, parce qu'on a le pouvoir de le faire, et on trouve ça cool d'essayer de faire des choses qualitatives, positives, et que tout le monde puisse se permettre de venir au théâtre, voir des cons, raconter des choses... intéressante, comme je dirais tout à l'heure, hein, on verra tout à l'heure. Mais voilà, c'est cool. Et sinon, pour finir, encore un énorme, enfin vraiment des énormes remerciements sur votre soutien, ça fait quasiment 2 ans maintenant, à 2 mois près. Votre soutien, vos messages, tout l'amour qu'on a pu recevoir de votre part, sur iTunes, 5 étoiles. Hein. Mais voilà, pour vous, pour les invités qu'on a pu avoir, certaines sont dans la salle, pour tout ce qui a pu se passer, pour les personnes autour de cette table que j'aime d'amour et que j'embrasse et avec qui on supporte beaucoup de choses. Mais voilà, on vous aime très sincèrement. On vous retrouve au bar dans quelques minutes. On vous embrasse, oui. On vous remercie d'être venu et 1000 bisous à vous.
Merci.
Merci, merci, merci.
C'est un détecteur de conneries.
C'est personne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout ?
Mais dites-lui nos conneries.
Le jeu dit d'aller se faire enculer. Ce qu'il dit ? J'ai envie de pisser.
Vulgaire ? Je trouve ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.